Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens aujourd'hui avec Aloïs, alias Alexis sur les forums.
Bonjour.
Aloïs, comment vas-tu ?
Très bien.
Prêt à débattre de ce merveilleux sujet que sont les techniques immersives. Quelles sont vos techniques de maître de jeu pour foutre la pression à vos joueurs, les mettre en immersion ? Mais justement, ça dépend de votre vision de Sens aussi. Avec toi également, et juste à côté de toi, Adrien. Adrien, ça fait très plaisir de t'accueillir sur ce podcast.
Merci.
Depuis le temps que je te lis sur les forums, là, tes théories de fou, là. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour nos auditeurs qui te connaissent ?
Ben, je m'appelle Adrien, je suis un garçon et je maîtrise Sens. c'est génial.
Si tu as une forte poitrine.
Exactement.
Comment est-ce que tu as découvert Sens ? Ça, c'est une question qui m'intéresse.
Ah, bah alors, complètement par hasard. D'ailleurs, c'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai cliqué sur une bannière de pub.
S'il te plaît. Ce n'est pas par hasard qu'on découvre Sens. Si tu
Non,
c'était déterminé. Tu devais découvrir le livre.
Non, ça doit être l'influence de Wilfred, mais ça, c'est donc forcément par hasard.
Et donc,
j'ai cliqué sur une bannière de pub, ouais.
C'est vrai ?
Ouais.
Sur Sci-Fi Universe ?
Non, c'était un site de jeu de société qui note.
Minuit 10 ?
Non.
Trick Track ?
Ouais, c'est ça, sur Trick Track.
D'accord, ok. Ok, voilà. Ok.
Comme quoi
la
référence
sur Trick Track ?
Bah oui, ça m'étonne aussi. Sur icosa.net peut-être plutôt.
Je ne sais plus.
Alors là, il faudrait se renseigner parce que c'est intéressant ça.
Ah, parce que la dernière fois que j'ai cherché les jeux de rôle sur Trick Track, il n'y en avait pas.
Ah oui, il n'y avait pas de jeux de rôle sur Trick Track ? Donc vous l'aurez reconnu, notre ami Thomas Poussou est avec nous. Tom, ça
Bonsoir.
Va ?
Bonsoir.
Voilà. Et avec nous également, l'ami Shadow.
Bonsoir.
Ça va ? Toujours en train de bosser sur tes projets secrets.
Tout à fait.
Et Soldevan est avec nous également.
Bonsoir.
Alors vous aurez vu qu'aujourd'hui on a un petit peu plus la patate qu'au dernier podcast sur la résistance. Oui, il aime bien dire bonsoir alors que oui bon. C'est vrai qu'on l'enregistre en pleine journée en fait.
C'est toujours plus classe de dire bonsoir à ce qui paraît.
Ah d'accord, ok. Bon. Alors bonsoir chers auditeurs, nous espérons que ce podcast sera agréable.
Ça dépend à quelle heure ils écoutent le podcast aussi.
C'est pour ça qu'en général, bonjour, c'est bien aussi quoi.
Salut, ça marche très bien.
Bon, salut,
c'est intemporel.
Voilà. Salut.
Donc le problème c'est une demi-heure pour se décider sur si on va dire bonjour, bon
voilà,
matin,
c'est ça, bonsoir. Exactement. C'est le but, hein. Nos techniques pour mettre l'auditeur en immersion, hein, c'était ça le truc. Donc nos techniques pour mettre nos joueurs en immersion dans le jeu de rôle Sens, et puis surtout comment ces techniques favorisent votre vision de Sens. Qui veut commencer les hostilités ? Évidemment, personne ne veut prendre ce premier micro, qui est une patate chose monstrueuse. Adrien, deux fois.
On m'a donné deux micros, bon, j'en prends un, ça suffira.
Honneur au nouveau du Shadow.
Alors, Sens, comment je le fais niveau ambiance ?
Est-ce que tu mets des musiques déjà ?
Je mets de la musique, mais ça, c'est pas nouveau, je le fais avec quasiment tous mes jeux. J'ai toujours une musique de fond pour globalement tout le scénar. En général, c'est la même pour toute une campagne. Plus, j'ai une ou deux pistes pour des moments particuliers d'un scénar.
D'accord.
Par exemple, je sais pas, on donne la respiroïde au bug.
Ouais, Thomas.
Tu utilises quoi comme type de musique ? Plutôt épique, plutôt sombre ?
Alors là, oui. D'entrée de jeu dans le vif du sujet. Là,
ouais, bah après, ça dépend beaucoup de ce que tu veux faire. Hein. Bah,
alors,
par
justement.
Exemple, dans Renaissance, c'est plutôt des thèmes épiques.
Ouais.
Je me suis créé une bibliothèque épique. Donc voilà. Donc là, tous des trucs avec des gros orchestres et des machins, des chœurs et.
Des trucs comme ça, non ? Non, pas du tout.
Ouais, c'est ça. À peu près, mais moins trompette.
Un peu moins trompette.
Et c'est là qu'on voit d'entrée de jeu que selon comment on voit
l'univers
Renaissance, l'univers, on fait pas du tout la même chose.
Alors.
Personnellement, je mettrais pas de l'épique sur Renaissance justement parce que c'est qu'un début et je mettrais plutôt des musiques qui sont calmes et auraient tendance à monter. Pour faire ressentir aux joueurs le fait qu'ils aient une importance.
Non.
Alors que l'épique, ça veut déjà dire vous êtes tout pour le monde.
D'accord.
Voilà.
Donc déjà, là, à ce niveau-là, il y a déjà un conflit de vision presque. Adrien.
Bah ouais, parce que dans Renaissance, les bugs, c'est tout. Le reste, ça importe quasiment pas. C'est eux qui doivent sauver le monde et sauver la résistance.
Enfin, Shadow, je te vois.
Non, ça me rappelle le podcast de la dernière fois où on parlait justement de la vision de la résistance.
Moi, je m'en souviens pas, je dormais pendant ce podcast.
Oui, tout à fait. Comme quoi, c'est important justement la vision qu'on apporte à tout ça. Oui.
D'accord. Bah, là, ici, on a clairement le cas où toi, tu joues plutôt à Loïs post-apocalyptique, on va dire.
Complètement.
C'est-à-dire avec une montée vers la lumière, quoi. On a,
oui, voilà.
D'accord.
C'est l'arrivée sur la Lune.
La renaissance, vraiment, au sens où on part du plus bas, on part des profondeurs de la Terre pour. Et alors que toi, tu dis, Adrien, plutôt.
Moi, c'est un combat où ils sont au centre, c'est les héros.
C'est les héros.
Donc, déjà, bon, c'est post-apocalyptique, mais c'est plus du décor que de l'ambiance. Hein.
D'accord.
Ouais. C'est-à-dire que, bah, effectivement, la Terre est ravagée, c'est désertique. Ouais, mais bon, c'est pas grave parce qu'ils sont là pour dégommer des méchants et, et, voilà, et gagner, quoi.
Enfin. Eh bien, je dois t'avouer que nous, c'est comme ça qu'on l'a joué la première fois. Thomas, qu'est-ce que t'en penses ?
Moi, personnellement, ma vision de Renaissance, c'est ça. C'est le côté très épique d'avoir le personnage, en fait, en tant que bug et le héros, quoi. Tout le monde l'acclame, c'est eux qui vont sauver le monde. De façon à ce que quand t'arrives à Sens Mort, eh ben, tu vois, t'étais super fort sur Terre, mais sur la Lune, t'es qu'une pauvre merde.
Mais en même temps, je suis d'accord avec toi, Loïs. C'est-à-dire que pour moi, il y avait aussi des musiques à la Alien, où on était dans des ambiances de tunnels.
Oui, c'est vrai, c'est quand même assez, on va dire, plutôt science-fiction.
Voilà, ouais.
Onirique. Ouais. Le fait d'être dans un endroit désertique, parce qu'il n'y a plus personne, mais quand même par le biais de bruit, savoir qu'il y a quelque chose, mais voilà. Tu ne sais pas quoi.
Mais moi, le côté épique ressortait lors des combats contre les quadrillas,
oui.
Où là, tu as vraiment du dialogue, c'est-à-dire que tu as un aspect presque Saint Seiya, où tu as d'un côté le méchant.
Presque.
Complètement Saint Seiya, où tu as le méchant qui fait son speech sur son état et sur sa condition, et en face, le bug qui essaye de défendre aussi ses idéaux et son point de vue.
Mais après, la musique, elle est contextuelle de toute façon. On ne peut pas mettre un genre de musique sur une campagne complète. Je pense que Renaissance n'est que le commencement. Et tu l'as déjà expliqué, c'est par la suite que le combat contre les bugs va devenir plus important. Et je pense que ce sera plutôt sur Cosmo, notamment, d'accord, que je vais mettre de la musique épique. Parce d'accord. que là, on sera vraiment dans le cœur du sujet et on arrivera au paroxysme du combat, au final.
Alors même si je suis d'accord avec toi, on peut pas dire ouais on va mettre telle musique. On peut dire d'abord quelle musique globalement on va mettre. Et moi malgré tout j'essayais quand même de rester dans les mêmes tons. Même les musiques un peu effrayantes venaient des mêmes OST. J'essaye d'avoir une cohérence musicale quand même. Et toi aussi j'imagine. Enfin, te connaissant, Aloïs.
En fait j'ai une collection limitée d'OST pour chaque sujet.
Ouais.
Donc.
D'accord, ouais, ça marche. C'est une bonne idée à mon avis. Shadow, toi au niveau des musiques, est-ce que tu en utilises déjà pour ta campagne?
Oui. Surtout en début de scénario, enfin de partie,
ouais.
Pour mettre les joueurs dans l'ambiance.
Donc, ouais, tu disais que tu utilisais un générique.
Tout à fait, un générique de début et un générique de fin. Alors le générique de fin, c'est toujours le même, c'est pour conclure la soirée.
Alors, c'est quoi? Ce stress est interminable.
C'est Diamond Dog de Beck.
D'accord. Je sais
pas si vous connaissez. Voilà, je trouve
le
que
manga
ça...
ou le musicien.
Le musicien.
Le musicien.
Donc voilà, c'est pour conclure, c'est toujours la même. Et par contre, en début de partie, je vais mettre une musique soit liée au scénario précédent, s'il est important dans ce qu'on va jouer,
d'accord,
soit une musique qui va introduire ce qui va se passer. Je demande à mes joueurs de fermer les yeux et de se retracer dans la tête
tout ce qui s'est passé,
vraiment de se
précédent.
Remettre dedans, etc. Et ça permet de commencer la partie.
Okay.
Facilement.
Alors, on invitait il n'y a pas si longtemps, hein, Thomas, Masha Lobanova sur notre podcast, donc une musicologue qui travaille sur No Life, et qui nous disait que l'utilisation de la musique, ça se faisait aussi avec des silences et des pauses. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vos scénars sont tout en musique du début jusqu'à la fin, ou est-ce que parfois vous laissez du silence, Aloïs ?
Bah, étant donné que la plupart du temps, je joue sans musique parce que je n'aime pas avoir à gérer mon ordinateur en plus de la partie parce que j'ai tendance à trop m'immerger.
Mmh.
Je joue très souvent en silence. Il m'arrive de prendre de la musique.
D'accord.
Et même si c'est le cas, il m'arrive d'utiliser les silences pour rajouter au pesant.
Ouais.
Parce que, par exemple, j'avais fait un scénario un jour dans un sous-marin où on était dans un huis clos complètement.
Ouais.
Et le moment où la musique s'arrête, ça va ajouter à la tension parce que les joueurs ils disent il n'y a plus de fond sonore. Et même si c'est inconscient, ils vont avoir tendance à réagir différemment.
Ouais, et ça, j'ai noté que les silences que nous avait conseillé de laisser Masha, parce que moi, depuis qu'elle m'en a parlé, j'essaye d'en laisser, ajoute énormément à l'attention. Effectivement, elle avait entièrement raison. Hein.
Mais je pense sur d'autres choses, elle devait avoir raison.
C'est-à-dire
sur le fait, je me souviens dans ce podcast-là, nous avait reproché, entre guillemets, c'est que l'utilisation de la musique dans le jeu de rôle se fait un peu comme dans un film, c'est que... On se sert de la musique plus comme un fond sonore.
On l'utilise.
On utilise la musique alors qu'on ne va pas plutôt dire l'utiliser plutôt pour que les gens l'écoutent et avec le biais d'écoute de cette musique va avoir l'ambiance.
C'est un outil dans le jeu de rôle en fait. Adrien, je te vois les yeux qui s'illuminent là, t'as envie de prendre le micro.
Justement, parce que moi j'ai fait un scénario qui était axé complètement à l'opposé, c'est-à-dire que je suis parti d'une musique et j'ai fait le scénario dessus.
D'accord.
C'est le scénario qui est donc sur le forum qui s'appelle Sous le feu des projecteurs. Et donc c'est autour d'un groupe de guitaristes qui s'appelle Rodrigo et Gabriela.
D'accord.
Je suis super fan.
Ouais, oui.
Et j'ai fait le scénar autour parce que ben, voilà, je voulais que ce soit ça le centre.
D'accord. Ouais.
Donc il y a moyen de faire l'inverse. C'est vrai que c'est moins systématique. Mais,
Et ça a donné quoi ton scénario fait autour de la musique?
Ça s'est très bien passé.
Au niveau de l'ambiance, ça a vraiment aidé?
Ouais, ça a beaucoup aidé. Ouais.
Comme quoi, elle n'avait pas tout à fait tort. Hein.
Ouais, non, mais c'est clair. De toute façon, depuis qu'elle m'a dit ça, ça m'a.
C'est son métier, de toute façon.
C'est son métier, c'est
non,
son
mais
métier.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'y avais jamais réfléchi suite à cette discussion. C'est vrai que maintenant, utiliser la musique, j'essaie de le voir différemment, quoi.
Ouais.
Et bon, je suis pas non plus un joueur, un MJ qui utilise beaucoup la musique.
Mais de toute façon, ça reste quand même très culturel et individuel, tout ce qu'on va pouvoir ressentir par rapport aux musiques qui sont posées. Le silence qu'on emploie qui augmente la tension, c'est le même que dans les films d'horreur.
Là-dessus, ouais, c'est clair. Alors là-dessus, bon, Macha n'est pas là pour vraiment répondre, mais je pense qu'elle aurait encore bien des choses à dire sur la musique. Retournons un petit peu. Shadow, t'avais quelque chose à ajouter? Tu voulais rebondir?
En fait, au début des scénarios de sens, je mettais une musique de fond. Je sélectionnais une playlist que je laissais tourner pour une ambiance qui allait être présente quasiment sur tout le scénario. Et en dehors des parties, chez moi, parce que c'est des personnes avec qui je joue qui sont régulièrement chez moi. Je laissais aussi ces musiques tourner régulièrement pour qu'ils s'imprègnent de ces musiques.
Ouais.
Et le jour où je me sers de ces musiques-là spécialement pour une scène, ils ont déjà des émotions sur cette musique. Il y a déjà quelque chose, c'est pas inconnu et c'est plus facile pour porter l'action.
Une scène. Thomas.
Moi, c'est comme ça que j'essaie d'utiliser la musique quand j'en prends. C'est que j'utilise toujours des musiques, les mêmes pour la baston, les mêmes pour les moments qui font peur, comme ça, les joueurs, ils sont direct dedans, quoi.
Sol de Van, là, qui est en train de se bouffer les cheveux, et pourvu qu'il ne se les arrache pas, c'est ça qui compte. Est-ce que tu joues en musique?
Moi j'utilise la technique de la petite playlist avec une certaine cohérence, c'est-à-dire même si deux musiques peuvent me faire penser à une même chose, je vais pas les utiliser si elles sont d'un point de vue purement dans le tempo et dans l'ambiance, je les utilise pas, ce qui fait en gros moi le choix de BO met extrêmement longtemps, c'est-à-dire je pars par grande playlist thématique.
Ouais.
Même par exemple, je peux avoir ambiance sombre et là à l'intérieur, tu as un ensemble de sous-dossiers avec des playlists quoi. Et en gros, il m'arrive de changer mais je la lance un peu en fonction de l'ambiance quoi.
D'accord, ouais. Ouais, moi
je laisse tourner derrière.
Je faisais un peu pareil que toi avant de rencontrer Macha et qu'elle m'ouvre les yeux sur certaines choses. Donc rapidement, est-ce qu'on pourrait faire un tour de table pour que vous nous citiez vos sources musicales? Aloïs, qu'est-ce que tu utilises comme genre de musique? Et aussi, précise-nous la vision de sens qui te semble correspondre à ces albums. Tu vois ce que je veux dire en les citant?
Bon, déjà, pour la bataille, j'utilise globalement qu'une seule musique qui vient de Final Fantasy VII, c'est la Genova Trance.
D'accord.
Donc, qui est celle qu'on entend à chaque fois qu'on affronte Genova. Voilà. Que j'aime énormément, qui a des sonorités presque métalliques et qui reflète pour moi le côté futuriste.
On utilisait la même. C'est énorme, je me retourne vers Thomas, ça me fait beaucoup sourire.
Et ensuite, je dirais parce que les combats sont quand même relativement rythmés et ça m'évoque quand même la Philonite aussi.
D'accord.
Pour le reste, ne jouant pas à sens en musique, je peux pas trop dire.
D'accord, ok.
Et la vision, on en parlera peut-être plus tard quand on parlera de techniques plus en rapport avec le jeu que la musique, parce que là, je peux rien dire de plus.
Ça roule. Mon petit ami Adrien, alors toi, quel genre de musique tu utilises? Donc tu nous as parlé de Rodrigo et Gabriela, donc
ouais,
les deux guitaristes.
Ça, c'est très particulier, c'est pour un scénar.
Voilà,
en fait, à la base, pareil, j'avais une playlist que je mettais en fond, et puis au final, les pistes qui m'ont marqué le plus, c'est celles que je ressors très très rarement, parce que c'est une scène en particulier. Donc par exemple, c'est une scène qui s'appelle Flying Kabuki de la BO de Blade Runner, je crois.
D'accord.
Il semble que j'utilise pour les passages de l'aiguilleur.
Flying Kabuki dans Blade Runner,
il me semble. D'accord. Je dis peut-être une erreur.
Mais en tout cas, tu utilises des musiques de Blade Runner.
Ouais.
Alors pourquoi est-ce que
Non, là semble... c'était vraiment parce que pour le thème Kabuki, par exemple.
Pour le thème du Kabuki.
Mais c'était voilà.
Mais si, il me semble qu'il y en a une qui s'appelle comme ça.
Quelques pistes comme ça, très isolées, que je prends pour des scènes très particulières.
Ouais.
Et après, bon bah ouais, pour le combat du très épique avec des chœurs et compagnie. Enfin bon, là.
Tu vas pas, tu utilises pas du Carmina Burana quand même.
C'est
pas burné à ce point-là.
C'est possible qu'il y en ait dans la playlist. Hein. C'est plus que probable qu'il y en ait.
Oh là là là.
Non. faut que ce soit gros. Hein.
C'est des héros. Hein.
C'est ça. Ouais.
Mifoste, t'as qu'à bien te tenir.
Exactement.
D'accord, ok. Sinon, au niveau d'autres musiques, est-ce que t'as des albums à conseiller à nos auditeurs?
Alors, oui, vas-y. Craig Armstrong, mais Craig ça, Armstrong, vous l'avez forcément entendu depuis le temps. Mais ça, c'est pour les scènes un peu plus mystiques, un peu plus première rencontre avec un quadria. Des choses comme ça. Je me transforme en quadrilla aussi, ça passe pas mal. c'est un peu le truc qui va bien.
Ouais.
Qu'est-ce que j'utilise d'autre de très particulier? Je sais pas. Non,
si tu veux, je peux te laisser les retrouver en attendant de passer le micro à Shadow. Shadow, quel genre de musique est-ce que tu utilises dans tes scénarios?
Eh bien, je me retrouve un petit peu dans mes deux.
Dans tes deux compères là.
Voilà, parce que beaucoup de Craig Armstrong, effectivement. J'aime faire réfléchir mes joueurs.
Ouais.
Je trouve que c'est parfait pour susciter justement qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin, voilà, les faire réfléchir, je trouve que c'est parfait. Et puis après, les scènes d'action, effectivement, j'ai peur de faire une erreur en le prononçant, mais Hippostumus, là,
Hippostumus.
Voilà.
Hippostumus, ça se prononce.
Tout à fait, merci. Voilà, et je trouve que ça envoie pas mal, que c'est très bien pour les scènes d'action.
Je vois Adrien qui fait pareil, voilà, il a retrouvé le. Donc, c'est pas du Carmina Burana, mais bon, c'est de la burne électronique, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. et puis, beaucoup de Metroid, plus en fond sonore, pas spécialement pour des scènes, voilà, plus pour de l'ambiance.
Des décors, des choses comme ça. Ouais. Ouais. Aloïs, tu voulais ajouter quelque chose?
Je repense à la musique que je vous ai fait écouter un peu plus tôt, RQTN.
RQTN.
Qui est donc un projet solo français.
Donc, ça s'écrit RQTN, comme les lettres, RQTN.
Que j'utiliserais volontiers sur la Lune, notamment quand il va s'agir des scènes de météores, par exemple.
Ouais, d'accord.
Puisque on va.
Sur des scènes de pensée, de narration interne.
Parce que c'est vraiment contemplatif, un peu à la limite de plus que la limite de la mélancolie.
Oui, tout à fait. D'accord. RQTN, très bon. Ouais. Je vous conseille à nos auditeurs de l'écouter. C'est toi qui m'as fait découvrir ça, c'est vraiment très bon. Soldevan, les musiques que tu utilises dans ta playlist.
Oula.
tu t'en souviens vaguement?
Oui, mais je pars beaucoup sur de l'OST d'anime, j'ai fait beaucoup de recherches là-dedans. Des fois, je trouve pas beaucoup.
Ça a l'air d'être une honte pour toi. Enfin,
Non, pas du tout.
Nous, c'est ce qu'on fait avec toi.
Non, c'est surtout que tu mets 3000 ans pour trouver deux chansons. Des fois, ça t'arrive. Mine de rien, il y a certaines chansons de Death Note que j'utilise, par exemple, pour un contexte un peu urbain, un peu glauque, comme par exemple celle de. Moi, je fais une campagne à Berlin là, ce qui est pas la joie, la joie.
Ouais.
Mais je parle pas des musiques de Death Note, style Law of Solipsism ou Kyrie, c'est-à-dire celles qui sont bien cœur grégorien, bien ho-ho, Kyrie en train de tuer tout le monde. Justement, les autres.
Tu parlais aussi d'OST de jeux vidéo. D'accord. Comme Star Ocean 2 aussi, que tu avais l'air d'utiliser.
J'ai utilisé un peu, mais ça c'est vraiment pour des scènes particulières des fois en fait.
D'accord, ça marche.
Après, ouais, beaucoup de Metroid aussi pour l'ambiance.
Il y a Prototype aussi qui a quelques très bonnes musiques.
Prototype, c'est quoi? C'est un jeu vidéo.
Un jeu vidéo sur 360.
Je connais pas du tout.
Oui,
et sur PC.
N'étant pas un grand adepte de Sony, je parle de ce que je connais.
Pas un podcast sur jeux vidéo, hein. Ça c'est Gameblog, c'est à côté. Thomas, toi, les musiques.
Alors moi, les musiques, c'est assez simple.
Admirateur, Thomas, ne confonds pas.
Moi, j'ai sur dans le dossier mes documents, mes musiques, Roma musique, Roma JDR.
Ah l'enculé.
Et là, je trouve le dossier. En fait, j'utilise pas trop de musique, j'utilise ce drum. Donc Rome, vas-y, dis-nous quelle musique tu utilises.
Là, Rome, il boit un verre d'eau, si tu veux, t'es gentil de pas lui donner la parole pendant qu'il se noie dans son verre. Moi, ce que j'utilise comme musique, c'est Metroid. pour les ambiances et même pour l'épique. C'est-à-dire qu'on a le thème de Metroid qui peut tout à fait servir à des ambiances épiques. Maintenant, pour les grosses révélations de gros méchants, les speeches de méchants qu'on peut retrouver dans les bouquins, j'utilise surtout du Vangelis, les musiques que je vous ai fait écouter en préparation de ce podcast, à savoir l'album Mythodea, qui est un album de Vangelis un petit peu difficile à trouver, mais qui est vraiment très 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 bon pour sens. Il y a des ambiances, il y a des montées, des chœurs, il y a tout ce qu'il faut, et c'est moins cliché peut-être que un Carmina Burana, comme on disait tout à l'heure. Mais en tout cas, c'est moins aussi, comment dire, connoté. C'est-à-dire que Carmina Burana, ça a été très utilisé dans des scènes épiques liées à de l'heroic fantasy beaucoup, ou à, en tout cas, des armes blanches ou des chevaux, comme dans Excalibur, ce genre de choses. Donc, j'essaie d'utiliser plutôt de l'épique space opéra. Donc, pour ça, Vangelis, c'est nickel. Et sinon, mes sources, elles sont citées dans le kit d'initiation. Hein, Craig Armstrong, comme vous tous. Voilà. Et sinon, j'ai des thèmes pour des persos aussi. Moi, les personnages...
Georges, en vous écoutant parler un peu des musiques que vous utilisez, on retrouve les musiques que toi, tu utilisais déjà.
Exactement. Ouais.
Comme quoi, l'inspiration est bien passée.
Ouais, c'est ça.
C'est clair. On a retrouvé certaines musiques qui étaient liées à certains personnages.
C'est clair. Hein.
On connaissait c'est... d'avant aussi.
Vous avez par le kit d'initiation, Adrien ? Non. Attends.
ES Postumus et Craig Armstrong, je connaissais déjà depuis des années. Quoi.
Ah ouais. Oui, mais non, mais ce que je veux dire, non, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez utilisé ces musiques-là, alors qu'au départ, quand Rome imaginait ses persos, les scènes, la musique tournait chez lui. Quoi.
C'est juste ça. C'est très intéressant. Et Radiohead, alors, vous l'utilisez ou pas du tout ? Je vois Shadow qui a l'air de dire mais bien sûr, mais évidemment.
Bah, évidemment, I May Be Wrong, et puis même toutes celles.
Le générique ? C'est le ce que tu utilises en générique ou pas ?
Tout à fait. Je l'utilise.
Ah non, tu l'utilises pas en générique ?
Des fois en générique, mais pas tout le temps. Ça va dépendre de du scénario à venir ou qui s'est passé, hein, effectivement, comme je disais. Mais non, ça peut être pour des scènes particulières aussi. Je l'utilise beaucoup pour rappelez-vous de. On vit une scène qui doit nous faire. On va se souvenir de quelque chose et je vais utiliser cette musique-là.
Radiohead, Thomas, tu voulais.
Alors, je veux juste dire, là aussi, c'est un truc qui m'a surpris, c'est que tu utilises des génériques.
Ouais.
Alors que nous, on jouait avec des génériques. C'est-à-dire qu'on avait d'abord toujours une scène avant où on nous explique un peu ce qui va se passer, le générique et le scénario.
On utilisait les musiques de Dune, tu sais, cette musique de voyage. Et où en fait pour expliquer les résumés et ensuite on lançait Radiohead. Là on se regardait tous un peu en chien de faïence en attendant que la musique s'achève, mais ça mettait dans l'ambiance et puis paf, on se mettait à jouer. Aloïs, tu voulais dire quelque chose, t'as lâché ton micro, genre bon c'est pas grave.
C'était en fait que tu disais Carmina Burana très utilisée pour tout ce qui est épique et autres, mais ça peut pas être pire que la chevauchée des Valkyries par Wagner.
Oui d'accord, ok, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est clair. Adrien, tu voulais réagir sur Radiohead, je crois.
Ça, enfin Radiohead, mais en fait Radiohead ça change parce que on n'est plus dans Renaissance, on est dans Mort forcément.
Ah tu trouves,
okay.
Et ben moi si tu figures-toi que j'écris entièrement tout sens Renaissance en écoutant du Radiohead.
Ouais,
la totalité,
non, c'est possible, oui bien sûr, mais après c'est pas la même chose de le jouer que de l'écrire.
Oui tout à fait.
Et dans ce sens Mort, ben ouais, un petit peu de Radiohead, mais j'ai pas encore fait toute une playlist, donc pour l'instant ils ont pas trop de musique. Hein.
Ouais.
Ils ont eu pas trop de musique dans ce sens Mort.
Parce que
c'est plus compliqué de faire une playlist parce que les bugs sont plus des héros, c'est plus quelques scènes qui vont être importantes. Il n'y a pas d'ambiance globale de sens Mort. Pour moi, il y a plus, par exemple, le scénar que je vais peut-être vous faire jouer, il y aura du Lady Gaga. Et ça, dans Renaissance, tu peux pas, dans Sens Mort, tu peux.
Oui, d'accord. Oui, je vois, parce que c'est vrai qu'en fonction des fragments sur lesquels tu es, tu as des ambiances différentes. Mais quand même, il y a un leitmotiv, je trouve, de Thomas.
Moi, je suis un peu révolté d'entendre que dans Sens Mort, il n'y a pas vraiment d'ambiance générale.
Alors,
c'est des ambiances par quartier, moi, je dirais plus.
C'est ça.
Mais... Ah, je sais pas, moi, Thomas. Je sais que Sens Mort, je suis pas un grand fan. Je trouve qu'il y a une ambiance générale du fait que le bug, en fait, en permanence, va avoir des occasions de briller comme il le faisait sur Terre, mais à chaque fois, ça échoue. En fait, je trouve qu'il y a l'ambiance de réflexion sur soi-même. C'est-à-dire que notre but, c'est peut-être pas que de se battre, il y a peut-être d'autres choses à faire.
Adrien.
Non, pour moi, le bug, il va pas briller du tout sur Sens Mort. C'est pas qu'il va essayer de briller et rater, il peut même pas briller. En fait, il a pas les circonstances. Il va juste essayer de secouer des gens et pas y arriver.
Il y a quand même des actions. Dire que moi, je regarde en Sens Mort dans les scènes dans les scénarios qu'on a fait, où on va leur proposer, faut que vous allez sauver quelqu'un, faut que vous allez récupérer telle chose pour la résistance. Tu vois, ils ont les occasions de briller, de dire, on va réussir une mission, et on arrive à la fin de la mission, fait encore une d'échouer.
Je pense au final que vous voulez dire la même chose, mais que lui.
C'est
part du point de vue, du point de vue de la résistance. C'est-à-dire que c'est vrai que la résistance nous donne des missions qui vont nous donner peut-être l'occasion de briller. Il y a quand même à un moment donné, carrément, dès le début, on rencontre Miphos Kadria, on a peut-être l'occasion de lui péter la gueule. Mais on échoue. Et tu vois, c'est toujours comme ça, quoi. Ça va, on va d'échec en échec, en fait.
Ouais, ouais, effectivement.
Mais par contre, mais en fait, dans le contexte de la Lune en tant que société, etc., ouais, là, je suis
ça.
D'accord avec toi.
C'est ça. Ouais. Pour moi, le vrai combat des résistances sur la Lune, c'est pas affronter Miphos. Affronter Miphos, c'est le combat. Mais le vrai fond du scénario, ben, c'est récupérer la rune. Et ça, ils le savent qu'ils vont pas y arriver. En fait. Ouais. C'est, ils le savaient quasiment dès le début, les joueurs, bon, sans le dire.
Tu l'as déjà fait jouer ça à ta table ?
Ouais, ouais, ben, ouais. À ma table, là.
Ça va, c'est passé parce que j'ai peur que ça entraîne un peu de frustration. Ça.
Alors, ça, c'est peut-être une autre question. Mais mes joueurs, en fait, j'ai une expression maintenant pour eux, c'est sortez-vous les doigts du cul. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent jamais à se décider d'aller affronter le Kadria de mort du fragment.
D'accord.
Mais jamais. Ouais. Donc, mais bon, c'est peut-être pas le sujet maintenant.
D'accord, ok. Alors donc, on a fait le tour des musiques. J'aimerais quand même vous poser une dernière question sur les musiques, si possible. Puis après, on va passer aux techniques de maître de jeu autres que les techniques musicales pour mettre dans l'immersion. Est-ce que vous avez des musiques associées à certains personnages ? Parce que moi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'en ai une pour chacune des runes. Et Aloïs, toi, est-ce que tu as des musiques associées aux personnages ?
Quand je pense à Gladius, notamment, c'est presque le seul personnage pour lequel j'ai un vrai thème.
Ouais.
Je pense au thème de Cid dans Final Fantasy VIII. Qui est vraiment sur les percussions, qui est très militaire justement,
ouais.
Et qui a quand même une certaine notion de félicité
et de tristesse aussi, je trouve.
Oui, ouais. la mélancolie après la victoire, en fait.
Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est bien vu ça. Adrien, est-ce qu'il y a des personnages comme ça qui ont des musiques, des thèmes musicaux ?
Ouais, donc j'avais déjà parlé de l'aiguilleur, mais j'ai aussi donc Wilfred. Wilfred, lui, je mets du harsh noise. Je choisis au hasard une piste de Harsh Noise et ça passe nickel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Harsh Noise, en fait, c'est. T'imagines la télé quand elle est en format mouche, tu sais, avec le. Ben voilà, c'est ça.
Je m'en doutais.
C'est exactement ça. Et il y a des gens qui font ça d'un point de vue artistique. Enfin, moi, j'écoute pas ça pour le plaisir, hein, j'avoue.
D'accord.
Ça ressemble à rien, mais pour Miphos, ben. Ça colle plutôt bien.
Pour Wilfried, tu veux dire ?
Oui, pardon.
Pour Miphos, on mettrait plutôt du Philip Glass, quoi. Des rythmes réguliers qui se répètent à la
fin. Ouais, alors on pourrait. pour moi, le Miphos, c'est de la musique classique, un peu genre Beethoven, quoi. Enfin,
je te vois révolter, Aloïs. Aloïs, reprends le micro pour Miphos.
Pour Miphos, je suis un peu partagé parce que d'un côté, c'est quand même un excellent pianiste, si je me rappelle bien. Il a été professeur.
Exactement.
Mais de l'autre côté, moi, je mettrais de la musique minimaliste.
Parce que c'est un logicien et un mathématicien.
Ça rappelle vraiment les mathématiques, la rigueur scientifique. En fait.
Shadow, est-ce que tu as des thèmes associés à différents persos ? Puis après, on va passer à Sonal.
Non, mais c'est quelque chose que je compte faire. Mais pour l'instant,
d'accord,
ça me fait marrer. Non, pour l'instant, j'ai pas encore de thème vraiment posé, puisque. Ils n'ont pas beaucoup de liens pour l'instant
avec tes personnages.
PNJ. Voilà, d'accord. Pour l'instant, j'ai vraiment fait réfléchir mes joueurs, mais ils n'ont pas encore beaucoup de liens avec les gros d'accord. PNJ. Ça viendra pas besoin, et puis les thèmes s'installeront.
T'as des idées déjà de thèmes que tu peux associer à certains persos ?
Oui, mais
attends,
elles sont cuitasses, les bananas.
Comme vient de dire Adrien.
Voilà.
Attention, ne parle pas sans micro, monsieur Adrien. Attention.
Donc non, ça va venir doucement. Pour l'instant, j'y pense, mais j'ai rien de figé encore.
D'accord. Soldevan, est-ce que tu as des thèmes précis pour les persos ? Du coup, si tu fonctionnes en playlist, peut-être pas.
Je réfléchis un peu. Non, la playlist, c'est vraiment pour le cours du déroulement, c'est-à-dire ils sont en train d'enquêter, il y a le scénario. Et justement, je fonctionne toujours avec le morceau spécial pour la scène spéciale.
D'accord. Donc c'est plus par scène, en fait.
Je fonctionne beaucoup plus par scène que par personnage. Bon, des fois, il y a des scènes qui se ressemblent avec des persos. Donc moi, un thème pour Miphos, ça me dérange absolument pas.
Ouais.
Pour Solipsis, déjà beaucoup plus, même si je sais déjà ce que je vais mettre à sa mort.
Heureusement que les joueurs n'écoutent pas ces podcasts. Ouais.
C'est vrai.
Ah bon, on n'a pas le droit de lancer.
Si, vas-y, bien sûr, on s'en fout.
Non, moi, c'est.
Ils ont capable que jusqu'à la fin de Sens Mort.
Oui.
Ouais, ça va. Donc, sinon, pour Miphos, des thèmes, des idées ? Parce que par exemple, tu parles de Death Note. Moi, je vois des. Il y a peut-être des musiques qui pourraient gauler pour Miphos dans Death Note, non ? Les Kyrie de Kira, ou alors la musique régulière et répétitive de Elle, peut-être.
Kyrie Eleison ?
Bah oui, c'est ça. Ouais, non, mais si. Enfin, sauf que c'est Kyrie Kira dans.
Oui,
mais c'est ça, oui, c'est ça. C'est une espèce de Kyrie, mais pour Death Note. Tu connais pas cette série, Aloïs ?
J'avoue avoir regardé jusqu'à la mort de Elle.
C'est au top. Ouais, ouais, ouais.
J'ai fait la même chose que lui.
Ah là, par contre, les 22 jeux de sens, attention.
Je vais faire encore une citation dans ton chat, parce que j'arrête pas. C'est aussi évident que la mort de. Enfin, que le Je suis ton père dans Star Wars.
Oui, c'est vrai, remarque.
Je risque de me faire virer.
Et voilà, t'as spoilé les gens dans Star Wars.
Non, c'est vrai que ça fait.
Et
ça
j'avais regardé le final juste pour spoiler ceux qui n'avaient pas eu le temps de le voir le jour même.
D'accord, ah ouais. Bon.
Voilà. Quel salaud.
Je l'ai pas fait au final.
Donc Thomas et moi, on a les mêmes musiques. Donc,
bah ouais, moi, Mifos, c'est Metroid.
La musique de Nightmare, ouais, voilà. Pareil. Ouais,
je pense que je vais vous la taxer en fait.
Solipsis, la musique de Star Ocean 2, le thème de Rena. Azilis, j'en ai, mais c'est sur le groupe de musique Ezekiel.
Elle peut l'entendre, la musique Azilis ?
Non, elle peut pas l'entendre. Bah, ça dépend à quel stade. Mais pour Classis, c'est pareil, c'est du Ezekiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Sinon, il y a le thème de Rob Dugan aussi, There's Only Me pour Classis.
C'est marqué sur le titre de la musique et je fais un double clic, c'est bon, ça marche.
Ou Nothing at all, ça dépend. Quoi qu'il en soit, pourquoi d'autre ? Il y a Finongfinger, j'ai pas de thème particulier. Et pour.
Moi, je dirais, tu mets du God of War, ça doit marcher.
Et pourquoi pas de thème particulier pour Finongfinger ?
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
Le silence de la mort, peut-être.
Je ne sais pas du tout. Il n'y a jamais eu l'occasion de lui donner un thème particulier. J'avais un thème.
Parce
qu'il
y a deux Finongfinger, à mon avis.
Ah non, je sais pourquoi. Ça y est, je me souviens pourquoi.
T'as le Finongfinger que tu suis à la bataille.
Ouais, voilà. Auquel
tu vas mettre une musique qui pourrit. Mais pas forcément heureuse. Là, justement, je pense que j'utiliserais peut-être un peu justement du Kyrie, ce genre de truc.
C'est possible.
Et puis, t'as le Finongfinger dans sa vie privée qui est. Moi, mais c'est. C'est le pauvre quoi, c'est tu peux pas mettre un truc épique, c'est un truc atroce.
Ouais, c'est pour moi, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs visages à Finongfinger, c'est clair, et c'est pour ça qu'on peut pas vraiment lui associer un thème maintenant. Une des vraies raisons aussi, c'est que Finongfinger était un personnage qui existait dans la première version de Sens, qu'il avait un thème et que dans la deuxième version, sa psychologie a trop changé pour le garder, donc du coup, je l'ai pas gardé. Ça peut être une vraie explication. Aloïs, tu voulais réagir ?
J'ai juste une question pour les maîtres ici. Est-ce que quelqu'un utilise de la musique qui n'est pas instrumentale ?
C'est-à-dire ?
Bah avec des voix, enfin pas avec des voix, mais avec du chant.
Avec du
chant ? Complètement, des paroles.
Que du chant ? Non, pas du tout.
Que, mais
ouais, ça c'est exclu pour moi. Ouais.
Il y en a une que j'utilise dans l'introduction. Néant, quand je fais l'introduction de Sens, ouais. C'est Waltz de Craig Armstrong.
Oui.
Où c'est une femme qui parle en allemand qui dit des signes de ponctuation.
Oui, d'accord.
Et ça, bon, ouais. Pour l'introduction, c'est génial et
c'est vrai.
Et c'est parlé.
Ouais, c'est pas mal.
Il y a peut-être un peu de musique, mais c'est pas le fond en fait, c'est pas ce que t'entends.
Aloïs ?
C'est du Glockenspiel ou c'est vraiment du chant où elle dit des signes ?
C'est vraiment parlé. C'est point, slash, slash, point.
D'accord, donc, informatique.
Elle parle comme
presque.
Ça. Ouais. Oui, c'est comme si elle disait justement un programme informatique. Enfin, moi, de ce que j'en me souviens de cette chanson, Shadow.
Et puis, il y a aussi Wake Up in New York qui est.
Wake Up in New York,
voilà, qui est le thème des bugs. Référence, ouais. Tout à fait.
Mais ou alors tu peux utiliser aussi, moi ce que j'utilise aussi c'est pour Wilfried les chansons de Radiohead, pour Wilfried il y a des musiques bien dans Radiohead, soit Amnésiaque ou des trucs dans l'album Amnésiaque, ou même dans Kida des morceaux comme Idiotech et tout qui me font énormément penser à Wilfried et à ses retournements de veste constants. Adrien ?
Bah pour Classis aussi, pour Classis c'est toujours avec des chants parce que Classis, tout à l'heure je parlais de Pitas les bananas, c'est parce que je l'ai fait. Hein.
Ouais, c'est
mais
clair.
Mais enfin voilà.
Il intervient même sur une chanson de Michael Jackson dans Sens Mort quand même.
Ouais, bon, après moi j'adapte parce que bon, Michael Jackson, moi ça me parle pas beaucoup.
Est-ce que vous savez d'où ça vient ? Pourquoi est-ce qu'il intervient comme ça ? Est-ce que je l'ai déjà raconté dans un podcast cette anecdote ou
pas
du tout ?
Je crois pas, non.
C'est Valérie Notavong qui a insisté lorsqu'il m'a fait les illustrations de Sens Mort. Donc, c'est pour vous dire un petit peu la psychologie du bonhomme. Il a dit putain, il y a Michael Jackson qui vient de mourir alors que je suis en train de faire ses illustrations. Je veux que tu mettes un titre de chanson de Michael Jackson dans le sens, c'est obligatoire. Et il a même dessiné, il y a même des endroits où on reconnaît des personnages. Si vous faites bien attention dans les illustrations, il y a même des endroits où on devine des espèces de Michael Jackson et tout. Enfin bref, Valérie est un fou, hein, faut le savoir, c'est un taré. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu du Michael Jackson. Mais bon, ça me faisait marrer de faire danser les gens du toddy, du réverbère sur cette musique. Ils s'en foutent de nous en plus, et ça me semble être la musique idéale. Donc voilà, est-ce qu'on a fait le tour pour les musiques ? Ah, pour le chant, Aloïs, pour répondre à ta question aussi, c'est que moi je les utilise dans Néant, j'utilise des chants grégoriens. Voilà.
Oui, faut...
Moi, j'utilise des chants grégoriens pour sens néant.
Je vois la musique, enfin le chant grégorien comme un instrument plutôt que du chant en lui-même.
Mais du chant, c'est pas possible.
Non, mais en fait, c'est ça, c'est que maintenant, mettre des musiques avec du chant, c'est que ça. Mais pas, c'est contre-immersif. Moi, je trouve ça contre-immersif.
Aloïs dit totalement.
Tu dis totalement ?
Non.
On est d'accord, là.
Non, non, bah, par exemple, Wake Up in New York, juste après avoir tué Graveur, ils sortent, ils croient, ben, genre que c'est la fin du monde, la tornade est en train de s'effondrer, enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et là, ils se réveillent un peu dans les ruines du bâtiment.
Ouais,
et on dit plus rien, on met la musique, on dit plus rien.
Ouais, mais c'est fin de scénario.
Non, 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 bah non, non, parce que pour moi, c'est pas encore fini. Ils ont encore tous les gars à ramener, à sauver. Il y a des patrouilles de l'Omicron dans le coin. Il y a un début de speech pour un scénar suivant que je fais à ce moment-là. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs, moi, encore là.
Moi aussi, ouais. Ils avaient encore quelques trucs à faire.
Ah, moi, je trouve que Thomas. Souvent, la plupart du temps, c'est vrai que dans ce cas-là, je vois exactement la scène. C'est vrai que ça se fait
ça
bien.
Colle bien quand même,
mais souvent, quand c'est chanté, c'est, je trouve ça souvent contre-immersif. Alors que quand il n'y a que de la musique, avec les instruments, tu arrives à bien être bercé et tu peux écouter ton MJ. Avec chanter, en plus, si tu connais la musique, c'est aussi qui est important, c'est pas prendre des musiques trop connotées. Parce que si les joueurs ils ont trop l'habitude, ils peuvent partir directement sur un autre univers. Genre, tu mets des musiques de Star Wars tout le temps dans ce sens, tu fais plus du sens. Quoi.
Tu mets pas de musique de Star Wars dans un jeu de rôle qui n'est pas Star Wars.
Ouais, ouais, non, c'est ça le truc, c'est que c'est trop
connoté. Je l'ai fait.
Mais du...
Non, j'ai juste utilisé pendant 10 duels avec un quadrilla Duel of the Fate. Ça passe bien, en fait. En fait,
le truc qui me dérange avec le chant, pour répondre à ta question, Alice, rapidement, c'est que ça couvre la voix du maître de jeu. Et je trouve que ça fait comme si on parlait à deux voix. C'est pas harmonieux, oui. C'est cacophonique, en fait.
Oh, et
c'est ça qui me dérange.
Je suis contre l'utilisation du
dans chant, le cas qu'en fait Adrien, je trouve ça absolument génial, parce qu'il le précise bien. Tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'on se tait et il y a juste à écouter la musique pour comprendre ce qui se passe à ce moment-là. Quelque part, la musique là vient remplacer, le chant vient remplacer le discours du maître de jeu. Donc là, à mon avis, elle est bien utilisée. Mais
ça me fait penser juste à un film qui est sorti assez récemment, qui est Sucker Punch. Si on écoute les paroles des chansons, on a toute une autre histoire qui se révèle en seconde couche, en fait.
Ah oui ?
Oui.
À Sucker Punch, tu l'as vu
Non, pas encore.
Ah, d'accord. Est-ce que c'est toi qui disais que tu voulais à tout prix le voir des minettes qui. Bon, bref.
Alors donc.
Il a bien raison.
Tout de suite, la réputation. Tout de suite,
hein, franchement, tout de suite. Hein, bon, je suis pas d'accord.
Vous m'avez traité de gros en live, merde. Hein,
tu méritais.
Donc. Donc, on va peut-être arrêter là pour les musiques, parce que c'est quand même ça fait une grosse
c'était
part.
C'était pas sur les musiques.
Mais non, mais mine de rien, ça fait quand même partie d'une.
C'est une
musique, c'est forcément une grande partie des techniques. On n'ira pas le fait que les musiques mettent forcément dans une ambiance particulière. Tu mets une musique comique, les joueurs vont avoir envie de faire des trucs comiques, et inversement, des musiques tristes, etc. Alors, toi, Aloïs, tu parlais d'autres techniques utilisées. Alors, c'est parti. Bon,
Là, la première technique à laquelle je vais penser, je l'ai pas utilisée sur Sens parce que j'en ai pas eu l'occasion. C'est jouer dans le noir avec des bougies que j'utilise sur un scénario de Kuro, tout simplement, pardon.
Ouais, c'est bon.
Dans lequel les joueurs sont plongés dans le noir et doivent se raconter des histoires de fantômes et éteindre une par une les bougies jusqu'à ce qu'ils en fait, ils sont censés invoquer un autre esprit.
D'accord.
Et quand toutes les bougies s'éteignent, la seule lumière qui reste fondamentalement, c'est celle de mon PC. Parce qu'il faut bien un endroit pour lire les histoires. Donc dans ce cas-là, en général, je le ferme. Je laisse un moment aux joueurs pour le suspense, en fait.
Mmh.
Et après, ils se réveillent dans la même salle, mais sans porte. Et sans lumière, sans rien. Mmh. Et après, continuent leur pérégrination. Mais,
Donc là, tu parles d'une technique qui vise les joueurs. C'est-à-dire que ce sont les joueurs qui éteignent les bougies au fur et à mesure.
Pour faire une synesthésie avec le personnage.
D'accord, ok. Une synesthésie, tiens donc. Tu utilises des termes de Frédéric Saint-Est, toi.
Oui, bah oui.
Lecteur de Silent Drift, tu es.
Pas du tout, pas du tout. J'ai pas non plus lu le blog de Frédéric. Et c'est pas lui qui m'a influencé pour mon dernier scénario de Z-Corp.
Pas du tout, non, non.
Moi, j'ai un personnage qui est très intéressant, c'est un muet. Et en gros, il parle des fois pas. C'est-à-dire, ça dépend de la motivation du personnage, mais très souvent, en fait, il a sa feuille de papier et il écrit, quoi. Ce qui...
Donc là, il joue son personnage au point de ne pas...
De ne pas parler autour de la table, sauf pour les actions. Mais son personnage, des fois, ne dit rien. Il a sa feuille de papier, il la montre aux autres joueurs.
J'ai aussi un personnage qui a une très haute rune en... Ça doit être... pour la discrétion, j'ai oublié la rune.
Néant,
voilà. Il a une très haute rune en néant. Et son personnage ne parle pas. Enfin, peu. Et le joueur non plus. On l'appelle souvent le sapin. parce qu'il est il est dans le décor quoi. Il y a 5 joueurs à la table et il y en a 4 qui parlent globalement.
Donc là vous impliquez en fait les joueurs de manière à rendre le jeu immersif, vous impliquez aussi les joueurs dans la fiction en fait.
C'est pas le but ?
Si si absolument. Ah ben si mais tout à fait. Mais en leur mettant en fait autour de la table des éléments liés à la fiction. S'il y a des bougies dans la fiction, il y aura des bougies autour de la table. On essaye ainsi de créer une synesthésie comme tu disais tout à l'heure. On essaye que les sensations du personnage, parce qu'il faut expliquer le concept quand même de Frédéric, c'est qu'on on essaye de faire en sorte que les sensations du personnage et les sensations du joueur soient dans des registres identiques, similaires. On essaye en fait de les faire se rapprocher l'un l'autre.
Parce qu'ils ne peuvent pas être identiques.
Étant donné qu'on doit nécessairement avoir le recul nécessaire pour apprécier en fait la fiction. Donc c'est une théorie très intéressante. Allez sur le blog de Frédéric pour entendre parler de synesthésie. Cher rôliste, vous en avez besoin. Adrien, est-ce que tu as des techniques particulières pour mettre l'immersion en place dans le sens ?
Ouais, bah bien sûr. Alors mon principal axe de travail, c'est pour que les joueurs soient immergés, il faut que leur personnage soit riche, construit, et que leur personnage ne fasse pas juste que résoudre des scénarios.
D'accord.
Et donc du coup, je mets beaucoup d'accent sur l'interscénario, sur tout ce qu'ils font à côté de je me bats pour la résistance. Donc par exemple, pour maintenir le côté héroïque de la résistance, tout ça, ils vont rencontrer des enfants qui vont au ciné, qui vont voir le dernier film où les bugs tuent une méchante araignée géante. Enfin bon, c'est ce genre de petits éléments qui rapportent un peu de couleur et qui font vivre le monde. Et puis après, ça leur donne des idées et puis ils se disent « Ah, mais on pourrait peut-être nous aussi se lancer dans créer des scénarios pour ce genre de film. » Et donc du coup, les joueurs se lancent dans d'autres trucs que ce qu'on attend d'eux. Et c'est par ça qu'ils font vivre leur personnage.
Aloïs, tu avais quelque chose à ajouter ?
Là, en fait, ça va au-delà de l'immersion. C'est de l'implication directe du joueur et du personnage dans le dessin de l'immerger, oui.
Bah oui.
C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est une bonne technique. Nous, on faisait ça à Saint Seiya. On avait exactement pareil que toi. Dans Saint Seiya, on jouait dans le monde contemporain des chevaliers, donc à l'heure actuelle. Et il y avait un film, on savait qu'il y avait un film, enfin une série animée qui s'appelait Chevalier Zodiac, qui était faite par Kurumada, qui parlait en fait de leurs histoires, etc. Ça faisait comme ça la mise en abîme, exactement comme vient de dire Aloïs, hors des micros. On ne parle pas en dehors des micros, Aloïs. Shadow, quelles sont tes techniques ? À moins qu'Adrien, t'en as peut-être d'autres, mais on pourra revenir.
Peut-être d'autres, mais on reviendra.
On reviendra.
En plus de ce qui vient d'être dit, il y a certaines scènes où je demande à mes joueurs, je leur explique avant le début de la partie, à un moment, je ne vous regarderai plus, il faut que vous en fassiez d'eux-mêmes, pour qu'ils soient en fait qu'entre eux, et ça les force à créer, à discuter, à faire avancer, à s'immerger, enfin être leur joueur, leur personnage. Donc voilà, je détourne en fait le regard pour que eux-mêmes comprennent que c'est le moment où c'est à eux d'avancer.
Excuse-moi, Soldevan.
Ouais, c'est un peu ça. Moi, par exemple, c'est quand ils discutent entre eux qu'ils ont fait une véritable discussion RP. Presque, ils m'oublient, tu vois, en milieu de la scène.
Ouais.
La discussion, c'est à ce moment-là que moi, je donne la brouette d'immersion positive, en fait.
D'accord.
Mais brouette.
Parce que moi, généralement, je faisais ça aussi. J'essayais de faire en sorte qu'on m'oublie un petit peu. Shadow, tu voulais revenir sur...
J'essaie aussi de faire des choses dans la réalité, on va dire, un petit peu, pas sous forme de GN, mais un soir, ils sont arrivés donc, pour faire le scénario de Sens, et je leur ai dit, vous allez prendre la voiture, vous allez partir en centre-ville, et à partir du moment où vous montez dans la voiture, vous êtes vos personnages. Je ne serai pas là. C'est vous qui allez jouer, moi je reste ici.
Oh putain, t'as fait ça ?
Voilà. Donc, au préalable, j'avais récupéré un téléphone portable.
D'accord.
Sur lequel j'avais changé les coordonnées d'une personne que j'avais transformée en Maria Gridway.
D'accord.
Et j'ai demandé donc à une amie de les appeler. Ils sont partis dans le centre-ville, ils ont reçu un appel.
Le caribou dans le Grand Nord.
Donc imaginez le téléphone qui sonne avec qui crie Maria Gridway.
C'est énorme !
Donc voilà, Marie Gridois qui leur dit « Il faut absolument que vous veniez, j'ai pas le temps de rester au téléphone, je suis à la clinique, venez vite. » Et moi, l'après-midi, j'étais allé à la clinique où j'avais porté un paquet cacheté. J'avais demandé s'ils pouvaient jouer le jeu et transmettre ça à des personnes qui allaient demander Maria Gridway. Ça a amusé les personnes de l'accueil, il n'y a pas eu de souci. Donc eux, ils sont arrivés en centre-ville, ils ont eu l'appel. Ça s'est pas passé comme prévu. Mais d'accord. Au final, les joueurs ont très très bien géré la chose. Ils sont allés à la clinique. Malheureusement, un petit peu tard, ils ont eu du mal à se décider, à se dire « Mais est-ce que c'est vraiment à la clinique qu'il faut aller ?» Enfin, c'est un peu gros quand même, enfin, ils avaient du mal. Mais en restant leur personnage. C'est-à-dire qu'ils m'ont appelé au téléphone « Allô, Gladius, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. » Et donc, je jouais le personnage et eux-mêmes étaient dans leur personnage. J'ai eu le retour après, ils l'ont joué jusqu'au bout. Ils sont arrivés à la clinique, c'était fermé. Ils n'ont pas pu avoir le papier acheté.
Ah, et pas de bol.
Et ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés aux urgences en disant voilà, on cherche une amie, c'est une médecin, etc. Donc forcément, chou c'est blanc. Une personne est quand même allée voir à la réception s'il y avait quelque chose, mais ne l'a pas trouvé. Ils sont revenus, ils étaient dans leur personnage, on a continué la partie. On a fait un débriefing, ils m'ont expliqué. Et je pense que c'est bien justement pour qu'ils s'attachent encore plus à leur personnage, qu'ils le jouent, pas que dans leur esprit, mais finalement physiquement aussi.
Adrien, je te vois hocher de la tête.
Non, moi je suis pas d'accord là-dessus. Alors... Ouais, enfin, j'ai vécu un scénar où justement à un moment on nous envoyait faire une chasse au trésor, quoi. Et non, enfin ça passe pas. Il y a vraiment une différence entre je joue mon personnage d'un point de vue jeu de rôle assis autour d'une table en discutant pour lui.
Ouais.
Et un autre truc qui est de se balader dehors et enfin je fais soit du jeu de rôle soit du GN. Je fais pas les deux ensemble.
Tu n'aimes pas le passage de l'un à l'autre?
Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, il faut que ce soit prévu, il faut que ce soit, voilà, qu'on le définisse, tu vois. Je peux faire une campagne où on dit, voilà, tel passage sera joué en murder, en GN.
Oui,
ou autre,
d'accord.
Mais j'aime pas le mélange parce que ça peut être une agréable surprise, tout comme le joueur peut dire, ouais, enfin, sérieux.
Alors là, j'ai une petite question.
J'ai passé ma journée en ville, j'ai pas envie d'y retourner, quoi.
Ouais, d'accord, ok, d'accord. Mais ils étaient au courant que t'allais faire un truc comme
alors,
ça?
Alors, pas du tout, mais ça a duré 20 minutes, c'était très rapide. Et eux ont été très satisfaits de le faire. Donc après c'est vrai que ça dépend des joueurs qu'on a en face.
Tu sais, de toute façon tu connais, quand tu connais bien tes joueurs, tu sais ce qu'ils sont prêts à faire et ce qu'ils...
Voilà. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé et puis ça a apporté quelque chose.
Adrien, moi j'aimerais te poser une question. Du coup, comment est-ce que tu fais l'histoire du Petit Prince dans Sens Mort?
L'histoire du Petit Prince.
Tu leur as pas donné le bouquin du Petit Prince?
Non, je leur ai pas donné, il était quelque part dans la pièce.
D'accord.
Donc au début, c'était Météore, j'avais un bouquin à vous donner mais je l'ai perdu.
D'accord, ouais.
Donc j'ai rien dit. Il y avait le bouquin quelque part dans la pièce. Et puis ensuite, enfin, à force, il y avait tellement de références au Petit Prince, hein, tellement de trucs qui ressemblent, qu'ils ont fini par chercher et le trouver. Et puis, ouais, voilà.
Alors là, justement, je te pose la question. Est-ce que quelque part, dans cette scène que tu as fait jouer, où ils ont cherché le bouquin dans la pièce et ils l'ont ramené, il n'y avait pas un passage du jeu de rôle au GN?
Alors, non. Enfin, oui, ouais, effectivement.
Alors moi, je t'explique pourquoi je te dis ça. Parce que moi, c'est tout à fait le genre de technique que j'utilise. Ce genre de truc, ce que tu as fait avec le bouquin du Petit Prince. Genre, par exemple, on fait un Cthulhu, et là, il y a des bouquins juste derrière nous, les bouquins, les dictionnaires, les vieux dictionnaires qui datent de 1920. On fait un Cthulhu 1920. Moi, je dis rien sur la ville, je dis, bah, voilà, il peut y avoir des trucs, et puis je vais leur demander d'aller chercher là-dedans. C'est un exemple, j'ai jamais fait ça. Mais c'est un exemple. Je me souviens dans la campagne de l'Orient Express que tu as fait jouer Thomas Poussou,
qui
était avec
nous.
J'avais sorti ça pour avoir les informations sur Lausanne. Et tout ça.
T'avais sorti ça, oui. Et puis c'est pareil dans la campagne, tous les.
Ça, c'est typiquement.
Les indices sont matériels.
Oui, voilà. Ouais. Donc, ça, côté j'adore. Là aussi. Tu découpes des petits bouts de papier et puis hop. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que t'as ça. Est-ce que ça va? Ça, tu tolères?
Oui,
ça
oui, parce que c'est beaucoup plus anecdotique. Okay. C'est pas. Enfin, faut pas que ce soit le cœur du scénario.
D'accord.
Moi, okay. Le bouquin, ils l'ont. Moi, s'il l'avait pas pris au premier scénar, je veux dire, moi, c'était au deuxième scénar, il arrivait avec le bouquin. Tenez, je l'ai retrouvé.
Moi, j'adore le délire de prendre une bagnole pour. Ça me dérange
non,
pas.
Non, mais moi, je trouve ça marrant.
Je trouve ça rigolo. Avec mais le coup de téléphone, je sais que personnellement, c'est pas un truc que j'apprécie beaucoup en tant
d'accord,
que joueur.
D'accord, ok. Parce que moi, c'est le genre de technique que j'utilise. Aloïs.
Moi, ce qui me chiffonne un peu, bon, je vais pointiller, hein, mais c'est pourquoi faire la différence entre GN et jeu de rôle? Le GN, c'est une forme de jeu de rôle. Donc, le passage de l'un à l'autre est presque naturel pour moi. Bon, c'est parce que je suis aussi géniste en plus d'être MJ.
Mais lui aussi, apparemment, Adrien aussi. C'est juste qu'il aime pas trop le jeu de rôle. Quand il est en immersion autour d'une table, il a pas envie de se bouger son cul parce que ça brise l'immersion. En fait, sauf ça contre immersif, Adrien, si j'ai bien compris.
Bah oui, c'est ça, parce que quand tu fais un GN, t'es costumé, t'es avec des gens qui font que ça. Voilà, t'es dans un milieu où tu fais ça. Quand tu fais ça autour d'une table, tu leur dis, bah là en ville et tout. Bon, ils vont arriver en ville, ils jouent à Sens Mort, ils arrivent en ville et puis là il y a des gens qui font leurs courses dans une ville sur Terre. Ouais, en fait t'as pas posé le décor, c'est à eux de faire tout le travail et c'est pas...
Enfin, d'accord. Ouais, bon, voilà. Soldevan, tu voulais prendre la parole?
Ouais, et puis ramène. Oui, c'est un peu contre-immersif d'une certaine façon. De toute façon, c'est pas précisé dans la base. Enfin, moi, je vais pas me poser sur ce point-là. J'ai pas encore fait ce genre de truc.
Ouais.
Mais c'est pas dit dans la base que quand ils exorcisent un quadrillion mort, mais ils prennent beaucoup de points d'immersion négative.
De points d'immersion négative. Non, et non, c'est juste qu'ils doivent livrer. Shadow, tu voudrais récupérer le micro. Il s'est juste précisé qu'ils doivent lire le passage.
Oui, mais Shadow. C'est pas précisé.
Sachant
oui,
qu'ils sont censés avoir le livre dans le jeu, je vois pas en quoi ce serait contre-immersif.
Moi, ils se prennent des points d'immersion négatifs quand ils lisent les passages. Ils ont pas le choix, il faut lire le livre. C'est d'accord. Pas un.
Et c'est écrit dans la base ?
Ah non, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Enfin, je pense pas, mais donc, en voilà, fait,
ils les
prennent.
T'as ta réponse, Soldevan. Je voulais redonner le micro à. Attends, Soldevan. Qu'est-ce que tu voulais dire ?
Il me semble vraiment que c'est dit.
Ne parlez pas en dehors des micros, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Il semble que c'est dit.
Ah oui.
À vérifier. Postez des commentaires sur le blog pour le savoir. Adrien, excuse-moi, je vous confonds là, je commence à me confondre.
L'idée du GN, c'était de dire voilà, mes joueurs sont en train de enfin ils sont toujours autour de la table à jouer leur personnage et je voulais qu'ils jouent leur personnage mais sans moi en fait. C'est vraiment, je les ai pas accompagnés. C'était pas un vrai GN. C'était
supprimer la pression du MJ.
Voilà, en fait. Et que eux cultivent eux-mêmes dans la voiture. Ils ont parlé de plein d'autres choses. Ils ont parlé, et je sais même pas forcément ce qu'ils ont dit. Hein. Mais quand on a fait le débriefing, ça a parlé de Solipsis, ça a parlé de Gladius Ward, ça a parlé de la Résistance. Ils ont pas lâché leur personnage du moment où ils ont franchi la porte. Et même quand ils sont revenus dans le bureau de Gladius Ward. Ils sont assis et on a continué. L'idée, c'était de cultiver l'immersion en dehors de la présence du MJ.
C'est pas mal, hein.
Bah, ça me rappelle les souvenirs.
Moi aussi. Bon, ouais, voilà, je vous dirai des choses quand on sortira de ce podcast. Alors, est-ce qu'il y a d'autres techniques dont vous avez envie de parler, Thomas ?
Alors moi, j'ai une technique que j'essaie d'utiliser le plus de fois possible, en tout cas dans ce sens. C'est de réutiliser éventuellement les idées ou les tripes des joueurs. C'est-à-dire que si à un moment, je vois un joueur qui est en train d'accrocher de quelque chose parce que tiens, il dit, oh, ce personnage-là, il était pas mal. Oh, j'ai bien aimé le bar tout à l'heure. Bah, essayez de plus l'intégrer au scénario de façon à ce que le joueur en lui-même, vraiment le joueur, ressente cette possibilité de créer l'univers en fonction de ses désirs.
Ouais. Ça, c'est pas que sens en fait, ça c'est tous les jeux en fait.
Pas vraiment, je trouve que dans le sens, le but du jeu, c'est quand même. C'est ça, c'est que l'univers, c'est le joueur quelque part qui le fait.
Bah, justement, moi je le vois pas comme ça. Parce que justement, sens, c'est quand même, ça reste quand même le MJ. Et faire du vecteur de volonté, enfin de la volonté du joueur. La volonté presque de sens en lui-même au final.
C'est pourtant bien, Aloïs, attention, parce que là c'est pourtant bien précis dans la base que le maître de jeu n'est pas un ennemi, c'est un guide.
J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que j'étais pas conciliant.
Il doit être réactif aux attentes de ses joueurs, c'est précisé noir sur blanc.
De là, oui, en fait, ouais. Approfondir les détails appréciés par les.
Projet personnel, le cœur des parties.
Ouais, voilà.
Oui, voilà, c'est approfondir les choses, oui, mais oui. De là à leur faire créer complètement l'univers, non ?
D'accord. Ah oui, non,
alors que c'est le genre de choses que je pourrais faire
complètement
sur Monostatos.
En fait, moi je sais que l'ambiance que j'ai, enfin moi c'est la façon d'avoir sens, parce que je suis allé plus loin, je sais pas, mais voilà, mon ressenti que j'ai de sens, c'est que moi j'ai un univers qui est donné. Sens, il dit voilà, l'univers il est comme ça. Et le puissance des bugs, ce n'est pas que j'ai des super pouvoirs, je peux aller dans l'ombre monde. C'est que bizarrement, quand je désire quelque chose, ça a l'air de modifier le monde. C'est qu'ils ont un pouvoir sur le monde. C'est vrai que moi, je sais que j'ai beaucoup de joueurs, j'ai quelques tables que j'ai faites, des joueurs qui ont arrêté de jouer parce qu'ils ont l'impression que le monde de sens les écrase. C'est vrai qu'au départ, je mets un monde qui est très oppressant, mais je veux leur montrer très vite que s'ils décident de faire quelque chose, ce monde oppressant, quelque part, ils peuvent le contrôler en partie. C'est leur puissance, quoi. C'est les héros.
Au niveau des techniques, Mathieu Gaborit, qu'on a eu la chance de rencontrer, nous a dit un truc très intéressant sur Sens. Il nous a dit que Sens, c'était un jeu qui ne ressemblait pas à ce qu'il écrivait, parce que lui, quand il partait dans les jeux de rôle, il partait du petit pour arriver au grand. Et il disait sens, c'est l'inverse, et ça peut créer une sensation d'étouffement, parce que il m'a dit, tu pars du grand, et en fait, à la fin, on finit dans une cavité au pôle sud, dans la description. Et du coup, il dit, c'est une ambiance oppressante et tout. Et donc, c'est peut-être ça qu'ont ressenti tes joueurs.
C'est possible,
quoi.
Ouais.
Celui qui est très sensible à ce genre de choses, il me l'a dit aussi. Et tu vois, c'est... Mais moi, c'est ce que je voulais. Donc, et c'est bizarre que tes joueurs aient réagi comme ça, Thomas, qu'ils se soient braqués. Il y en a peut-être d'autres,
en tout cas, c'est une des raisons qu'on m'a données. Hein.
D'accord, ouais. Adrien et Shadow, vous vouliez tous les deux réagir.
Ouais, moi je voulais revenir sur l'espace de création laissé aux joueurs.
Ouais.
Et ben moi, il y a tout un scénar que j'ai fait juste par mail. Et je leur ai dit, voilà, là, la base, c'est on vous donne une mission, c'est ça. C'est aller, on a trouvé un laboratoire de la cellule là-bas. Et je leur ai dit, c'est vous qui racontez toute l'histoire.
D'accord.
S'il y a des trucs que vous ne savez pas ou que vous doutez, bah, je vais dire mon petit mot, vous ne trouverez rien d'exceptionnel. Ils savaient que c'était juste pour faire vivre leur personnage.
C'est-à-dire qu'en fait, tu leur as imposé l'écriture d'un mail en rapport avec une fiction qu'ils devaient créer ensemble.
C'est ça, ouais. Ça. Okay. C'est ça. Et okay. Du coup, ça s'est super bien passé parce que ben, ils ont pu mettre des éléments qu'ils avaient vus dans les scénars d'avant, avoir revoir leurs problématiques, revenir, parce que ben, les mêmes questions, ils vont se retrouver face aux mêmes problèmes. Qu'est-ce que c'est que la cellule? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce symbole qu'on voit partout? C'est des laboratoires bizarres, qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas?
D'accord.
Donc il n'y a pas eu vraiment de réponse, mais ça fait vivre les personnages. Et quand tu commences le scénario suivant, ben, ils ont un sujet de quoi parler. Ouais.
C'est comme les scénars solo, en fait, dont on parle souvent avec Tom et Flavie. C'est que ça permet aux joueurs d'avoir des choses à échanger avant même que la partie ne commence, en fait.
Ça, j'ai jamais fait les scénars solo.
T'as jamais fait? Ah ouais? Alors, on en parlera après. Shadow, tu voulais dire quelque chose?
Non, c'est juste pour appuyer ce qu'il disait. Certes, on leur dit que le méta-jeu est important.
Ouais.
Enfin, en tout cas, on essaye de leur faire comprendre. Mais c'est important pour nous aussi de le favoriser, de leur demander d'écrire des choses, de travailler leur personnage, parce que effectivement, hein, l'immersion va venir avec l'attachement au personnage et au background.
C'est bien, c'est bien de faire ça. C'est vrai que c'est pas précisé dans la base. Je m'en veux de pas l'avoir précisé dès le départ. Moi, j'ai juste mis ça sous la forme de débriefing et de scénar solo. Mais là, de voir que vous le faites, c'est super. On viendra sur cette histoire. Aloïs, si vous voulez réagir rapidement.
Moi, c'était pour en revenir avec Thomas.
D'accord.
Ce qu'on disait sur le fait que Sans n'est pas l'ennemi des joueurs,
ouais.
Tout en disant que c'est quand même Sans qui maîtrise l'univers, ce que voient les joueurs, ce qu'ils veulent approfondir, au final, c'est quand même Sans qui le crée.
Mmh. Oui, c'est
donc,
vrai.
Il n'y a pas tant de paradoxe que ça.
C'est un premier moteur, mais les joueurs restent quand même des interprètes.
Ah oui, évidemment. Mais c'est leur vecteur de volonté, si tu veux, ils transmettent leur volonté au monde, au final. Oui, et le monde leur répond.
Ouais.
Moi je trouve quand même dans la vision du jeu, Sans a contrôlé l'univers pendant un temps, mais il ne le contrôle plus quand les bugs arrivent.
Hein. De moins en moins, oui, en tout cas.
Je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de scénar solo. Adrien, tu ne fais pas de scénario solo.
Erreur.
Alors j'en ai un de prévu. D'accord. Parce que c'est y a eu des problèmes entre deux joueurs sur la table, il y en a une qui est partie et qui va revenir d'ici 2-3 scénars.
D'accord.
Donc là, je vais lui faire un inter-scénar sur Terre pendant que les autres sont sur la Lune.
D'accord.
Moi, pourquoi ouais. Voilà, petite question. Thomas. Pourquoi pas de scénar solo? C'est une question. Exactement. De temps, t'aimes pas
Alors, un scénar solo, faut y mettre quelque chose. Et ça prend du temps. Et j'ai pas beaucoup de temps, pas suffisamment de temps pour préparer tout ce que je voulais.
Désolé. Okay. Ouais, ça, sans sens, ouais. Sens là-dessus est voilà. Absolument exigeant.
C'est pas que pour sens. Enfin, ça, voilà. C'est pour tous les jeux de rôle. On peut faire des scénars solo.
Je trouve que justement le solo dans sens, en tout cas, c'est quelque chose. Moi, j'ai trouvé très important. Mais moi, j'ai l'avantage justement. Moi, je trouve que c'est pas si dur que ça de faire du solo. Mais c'est peut-être mon expérience en tant que MJ. Je sais que vu que t'as qu'un seul joueur, il faut que tu aies une idée rapide. Genre, moi, j'écris 3 lignes. Pour avoir une idée un peu de scénario, et le joueur, je le balance là-dedans, et il va prendre des initiatives, puisqu'il est le seul à jouer, et qu'il a tout le temps la parole.
C'est le bac à sable.
C'est le bac à sable. Et donc, ça permet, en fait, un personnage, un joueur, il va dire, tiens, j'ai envie de triper dans tel truc, j'ai pas besoin de le dire, je vais le faire naturellement, et ça va permettre au MJ, de mettre des scènes qui a fait en sorte que le personnage en question soit différent des autres, et une fois qu'il retrouve la table, il dit, au fait, les gars, j'ai découvert tel truc.
Ouais. Ouais.
Et dans ce sens, je trouve que c'est très important parce que le personnage est quand même la chose primordiale du jeu, quoi.
Ça fait une belle dynamique.
Oui. Moi, c'est des choses que je fais qu'en inter-scénar, en fait.
Ah,
c'est-à-dire, c'est chacun à son projet.
Toi, tu fais sous forme de discussion.
C'est des discussions entre joueurs par mail ou sinon c'est chacun à son projet. Par exemple, j'ai un de mes bugs sur la Lune qui est en train d'écrire un webcomic. Bon, alors j'ai eu genre deux trois strips comme ça pour qu'il me montre l'exemple. Mais en gros, il se lance dans ça et puis donc du coup, de temps en temps, on voit à quelle convention il va, quel genre de public il essaye de cibler, etc.
Là, tu fais par le biais des intercénars.
Il y a une autre bug qui, elle, s'est engagée dans l'associatif, une association à buveurs pour aider les enfants qui sont là-bas à sortir des bas-fonds.
On a eu
bas-fonds.
Ça aussi, hein.
En fait, c'est ce que vous faites en solo, mais moi, on fait ça par mail entre les scénars.
D'accord. Donc ça fonctionne parfaitement.
En fait, mais nous, on fait tout le temps jouer.
Mais ouais, nous, on aime bien jouer, en fait. Et comme on ne peut pas tous se réunir, solo, c'est super parce que c'est particulier aussi. C'est aussi dû au fait à la manière dont fonctionne la barreau, le lieu, c'est que moi je suis toujours là, donc il y a toujours le maître de jeu qui est là, donc après le joueur il vient prendre un café, tiens, sur ce un petit scénar solo, c'est ça l'idée quoi.
Et justement, lui ça a l'air d'être des actions que réalisent les joueurs, lui il les fait un peu en intercénar, vous les jouez, mais est-ce que vous avez fait des choses un petit peu plus évoluées, quelque chose à découvrir, ou par exemple c'est vraiment comment tu te comportes, carrément, un peu les effets que tu vas faire.
Alors là,
justement,
moi je sais
que... depuis tout à l'heure on est extrêmement dans l'ultra théorique, est-ce que ce serait, vu que vous avez quand même pas mal de rodage derrière, de nous donner quelques exemples de choses que vous avez faites.
Moi, je peux t'en donner un, et Thomas qui est là, on pourra en parler aussi, c'est le coup de Benoît, dans la chronique que tu nous as fait de Renaissance, probablement une des plus belles scènes de Renaissance que j'ai faites. En fait, Benoît était au courant que les quadrillas étaient en fait étaient au service de Solipsis
était gentil. Hein.
Et en fait, il l'a appris au cours d'un scénar solo, quoi. Et donc, nous, on savait pas du tout, on n'était pas du tout au courant de ça. Et il l'a sorti d'une manière. Alors, je sais plus exactement.
C'est qu'il y a un moment, il y a des quadrillas qui arrivent pour dire salut, en fait, on est cool.
Ouais.
Et là, il y a Benoît qui a fait bah oui, j'étais au courant. Vu que personne n'était au courant, enfin, entre guillemets.
C'était génial.
Voilà, c'est vrai que t'as le côté personnage. Mais comment tu le sais? Pourquoi tu nous l'as pas dit, quoi?
Ça
me semblait pas important.
Et voilà. Alors je sais plus exactement comment ça s'est passé, si tu veux, dans la scène, mais c'était l'indifférence qu'il a mis dans ce truc-là et tout, alors qu'on apprenait ça, c'était une grosse révélation et tout ça. C'était génial. Là, le scénar solo était vraiment essentiel. C'est-à-dire que, du coup, on réinterprétait complètement toutes les choses qu'il nous avait dites à leur sujet. On se disait, mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il les a pas tués, il a pas cherché à les éliminer, alors que nous, on a cherché à les éliminer.
L'avantage, je trouve, du solo, c'est que ça permet, en fait, ce que je dirais que Sens, c'est un jeu où le but, c'est que tu réfléchis tout le temps, quoi. Ouais. Même quand t'es hors scénar, tu réfléchis à l'univers, qu'est-ce qui va s'évoluer en tant que joueur.
Ouais.
Et qu'avec le solo, tu peux mettre à profit ces théories. C'est parti, clair. On va essayer, on va voir ce qui marche. Avec une table, tu le fais pas vraiment parce que ça va vraiment prendre beaucoup de temps, donc tu vas plus ralentir le scénario.
Tu voulais dire quelque chose, Shadow?
Bah oui, parce qu'effectivement, moi je fais pas de scénar solo, mais pas parce que je trouve pas ça utile. C'est parce que j'ai pas l'habitude. J'en ai dans tous les jeux de rôle que j'ai fait, j'en ai jamais fait.
Peut-être d'être seul face à un joueur.
Peut-être, sais pas, j'ai du mal à me lancer, et pourtant je sens que c'est indispensable. Quand je vois où ça va aller, ce qui se passe, c'est vital. Mais
il y a quelque chose de particulier à se raconter une histoire à deux, je trouve. Aloïs, est-ce que tu as eu l'occasion de jouer à des jeux indépendants qui jouent à deux? Moi, je trouve ça très bizarre.
J'ai fait Prosopopée avec Frédéric Saintès.
Ouais.
Je trouve que pour Prosopopée, c'est quand même différent parce que le but, c'est quand même la proposition créative. En elle-même, alors que mettons sur Sens ou sur un autre jeu, je pense que le fait de jouer à deux, ça diminue la proposition créative. Mais d'un autre côté, comme tu disais tout à l'heure, c'est le bac à sable, mais il y a personne pour casser les pâtés, quoi.
Ouais, non, moi c'est ça en fait. Pour moi, c'est dans Sens, quand on joue en scénar solo, c'est ça, quoi. C'est le bac à sable sans qu'il y ait personne pour nous faire chier. On peut faire ce qu'on veut. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on enrichit son personnage sans que les autres le sachent. Et donc, lorsqu'on va sortir une révélation, ce sera très immersif. Parce que tous les joueurs l'apprendront en même temps que leur personnage.
Et je me souviendrai toujours d'un scénario où on apprend que Guy, donc un des joueurs,
Aurélien Gabriel Montaigu,
c'est un quadrilla de mort.
Ouais.
Là, c'est on a le peinard, on est en train de se travailler depuis plusieurs scénarios, et puis à un moment, c'est un quadrilla de mort. Mmh. Alors que personne n'était au courant, ça arrivait comme
Nathaniel
ça.
Nathaniel qui ressuscite Maria Grid, ouais.
T'imagines,
en plein scénar solo, donc il fait ça, personne n'est au courant, de temps en temps, Nathaniel s'absente, on ne sait pas pourquoi, on ne sait ni pour qui ni pourquoi il s'absente, et un jour, il avoue tous que Maria est toujours vivante et qu'il l'a ressuscité. Des trucs comme ça, c'est des trucs de ouf, des grosses révélations que tu te prends dans la gueule, et comme les joueurs l'apprennent en même temps que les personnages.
Ça vit vraiment, quoi. Ça permet de rajouter des faits.
C'est énorme.
En fait, moi, c'est pas tellement pour moi que j'ai peur de me sentir mal à l'aise par rapport à mon joueur, mais plutôt le contraire. J'ai peur qu'ils se sentent oppressés par la présence du MJ, alors que dans ce sens, j'ai tendance à m'effacer justement pour eux, les aider à s'immerger.
D'accord.
C'est écrit dans la base que le MJ doit parler à peu près autant de temps que les joueurs. C'est quand même relativement difficile à tenir. ouais, la plupart du temps. Ouais, mais j'essaie d'être le plus discret possible. C'est pour ça que je parle avec une voix plus basse que d'habitude. Donc, vous avez constaté hier que déjà, je ne parle pas toujours très fort.
On ne l'entend pas, là, du coup.
Mais j'essaie de parler moins fort, histoire qu'il soit vraiment dedans. Mmh. Que ouais. Le MJ s'efface, que Sens s'efface au profit de la réalité.
Mmh. Ouais, non, c'est indispensable. Les scénars solo, moi, voilà, ou alors les discussions avec les joueurs en dehors de la partie sur ce qu'ils vont faire et tout, c'est parfait, quoi. Parce que dans Sens, on n'a pas le droit de séparer les joueurs, quasiment pas, quoi. À cause des réplioïdes et tout, il y a toujours une communication, et puis c'est bien précis dans la base qu'il faut pas séparer les joueurs. C'est pas un jeu dans lequel on va séparer deux joueurs. J'entends.
Trop tard, c'est déjà fait.
Tu l'as fait déjà, Adrien.
Bah, y en a une qui est sur la Lune, enfin une qui est sur Terre, ah oui. Donc les autres sont sur la Lune.
Oui, d'accord, mais séparer les joueurs au cours du scénar, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire faire attendre trois joueurs dans la pièce, tandis que tu es en train de jouer avec deux autres.
Ça, je le fais deux, trois fois, notamment.
Rapidement, non ?
Je passe dans l'ombre au monde, donc je le prends à part. Bon, là, il y a un quadrilla face à toi. Mmh. Et donc, on commence à gérer ça, puis enfin, ça dure jamais très, très longtemps.
D'accord, ouais. Alors,
okay. C'est vrai que nous, on n'était pas dans cette idée-là. Je ne sais pas si c'est marqué dans la base.
C'est vrai que nous, quand
on joue à Sens, on considère que les joueurs doivent toujours être présents. Quand quelqu'un fait quelque chose dans son coin, les autres joueurs sont forcément au courant, c'est obligatoire.
Ça, c'est aussi dû
quand
à la relation.
Quand tu vois quelque chose sur ta feuille, les autres joueurs sont d'accord.
Et puis, tout bêtement, la Respiroïde, de toute façon, retransmet toutes les informations aux autres membres.
Alors, tu peux le désactiver, ça.
Pas obligatoirement.
Oui, mais voilà, l'idée, c'est l'idée. Y a un combat, il y en a un qui passe dans l'ombre monde, il va pas désactiver sa Respiroïde, donc de toute façon, les autres sont au courant.
C'est marrant, ça. J'ai pas le souvenir de jouer comme ça,
non. Non, mais certains peuvent le faire, mais oui. Je veux dire, voilà, l'idée, c'est on est en combat, je la désactive pas pour que les autres sachent ce qu'il y a dans l'ombre monde, qu'ils aient pas à y passer s'il y a un danger ou quoi que ce soit. Mmh. Donc, il n'y a pas à les faire sortir de la pièce.
Parce que la communication, elle marche entre ombre monde et réalité.
Nous, ça marche pas.
Nous, ça marche pas. C'est pour ça, en fait, par exemple, que je sépare les joueurs.
Ça marche pas.
Mais c'est vrai qu'effectivement, par contre, je vais changer de truc et effectivement, je vais les garder tous dans la même salle. J'avais pas pensé à l'idée des cellulises qui sont.
Ça fonctionne pas.
Alors. Donc, rapidement, pour répondre à cette question technique, la répliohide, deux répliohides, s'il y en a une dans la réalité et une dans l'ombre monde, ne peuvent s'échanger d'informations.
Voilà. Sur ton casque, t'as un téléphone.
Mais les cellulises peuvent s'échanger des informations. Et il est possible de dépenser des points d'immersion, par exemple, pour s'échanger des informations. Mais c'est triché. Et c'est pour ça
c'est
que je veux dire.
C'est dans les règles du jeu.
Oui, c'est dans les règles du jeu. Non, donc c'est pas triche, mais bah, je veux dire, c'est triché par rapport aux règles de l'univers.
Je fais comment maintenant pour. Parce que moi, ils arrivent à communiquer.
Non, mais je vois pas en quoi c'est gênant quelque part. Si tu l'as fait comme ça, tu peux continuer.
Adrien, je trouvais pas ça problématique.
Non, c'est pas grave. C'est problématique du point de vue de la métaphysique de Sens.
Si la métaphysique dans le jeu, ça marche pas.
C'est un détail. Si tu veux continuer à faire.
Je suis pardonné alors.
Oui, t'es pardonné. Merci. C'est bien.
Sens t'absout.
Au pire, c'est pas très grave. On dirait que c'est la faute de Romaric et qu'ils peuvent plus le faire à partir de maintenant. Voilà.
il l'a mal expliqué.
J'ai mal expliqué. Je suis méchant.
Ça arrive dans le monde de Sens, ça peut pas marcher.
Non. Moi, un truc, une petite technique aussi que je faisais, que j'avais peut-être mis dans le kit d'initiation, je sais plus. C'est des talkie-walkie qu'on avait essayé pendant une fois avec Thomas.
Ah, c'est beau ça. T'es en train de faire ton scénar tranquille. On n'utilise pas les talkie-walkie. Puis à un moment, t'entends. Quoi ? Et en fait, il y avait un gamin qui avait réussi à capter le signal et qui nous faisait des bruits bizarres dans le talkie pendant que t'es en pleine scène au fond d'une grotte, à trolleyball.
En fait, on jouait avec des talkie-walkie. Quand il y avait par exemple une unité qui était à un endroit, une autre à un autre. Une unité avait une carte, l'autre n'avait pas les plans. On échangeait des trucs comme ça. Ça c'était une idée qu'on avait eue, on l'avait jamais joué.
Parce que c'est à l'époque quand on a joué avec les talkie-walkie, la règle que tous les joueurs doivent être présents pendant une scène n'existait pas.
Voilà,
et il y avait quand on séparait en fait, le groupe se séparait vraiment. Et quand on faisait une communication, il y a que le MJ qui faisait les allers-retours et les joueurs ils communiquaient par talkie quoi. Ils avaient le diadème avec eux.
Ouais, voilà, c'est ça, le diadème noir, c'était le nom de l'objet qui servait aux résistants à communiquer.
C'est pas comme ça
quoi. Je crois pas que ça apparaisse tel quel dans la base, non. Non, mais bon.
Vous communiquez avec quoi vous ?
Parce que le diadème noir, c'est quelque chose de très très moderne et comme depuis l'esthétique de Sens est revenue vers un truc plus années 40. Tu voulais dire quelque chose Shadow ? Avant que je ne t'interrompe.
Il disait qu'on faisait des gros yeux parce que vous parliez de la première base et que nous on n'était pas là.
Ah oui, d'accord, ok, oui. Oh là là là.
Ah bah qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Hein.
Par contre, on a vu un exemplaire de la première base.
Assez joli.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous utilisez ?
En parlant de la première base, je vais vous faire une anecdote. J'ai vu que dans le monde de Sens, dans ta première base, les gens qui avaient l'arsin niveau 5 et 6, ils volaient que des pantalons.
Quoi ? Attends, c'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que t'as dit là ?
Je disais, en fait, c'est dans la partie des caractéristiques.
Ouais.
T'as l'art 5 et t'expliques chaque niveau.
Ouais.
Dans le niveau 5, tiens, quelqu'un a volé mon pantalon. Niveau 6, tiens, je suis dans la rue, quelqu'un m'a volé mon pantalon.
Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? C'est en référence à Bobby qui a perdu son... qui avait perdu son pantalon une nuit dans les
Donc,
rues.
Donc, privé de joke.
L'agnon.
Donc c'est normal de ne pas suivre à ce moment.
Désolé.
Non, mais on a un pote qui était en blackout et qui s'est retrouvé. Il a été réveillé par les flics plein phare sur sa gueule. Il avait perdu son pantalon. Il n'a jamais su comment il avait perdu son pantalon. Voilà. Et comme j'avais appris cette histoire en même temps que j'écrivais Sens Renaissance, quand il y a eu la compétence Larsin, c'était une compétence qui permettait de voler des choses aux gens sans qu'ils s'en rendent compte, bah, j'ai fait un mec qui se fait voler son pantalon. Voilà. C'est nul. Hein, c'est une private joke. C'est pourri. Mais voilà. Bon. Donc,
technique d'immersion.
Oui, des techniques d'immersion, voilà. Pour la peur, par exemple, on n'a pas beaucoup parlé.
Ah oui, j'en ai.
Aloïs.
J'ai parlé en préparation un peu du podcast d'un scénario que j'avais fait jouer en huis clos.
Oui, tout à fait.
Donc, c'était pas dans Sens, c'était dans Polaris.
Ouais.
Et il se trouve que j'étais debout la plupart du temps et j'étais devant un radiateur sur lequel je tapais à intervalles irréguliers pour simuler en fait les bruits des gouttes de sang qui tombaient une à une sans que les joueurs le sachent. Il y a une joueuse sur laquelle ça a particulièrement fonctionné, une géaniste en prime, qui a vraiment eu peur du début à la fin jusqu'à ce qu'elle se rende compte de ce que c'était et que là ce soit son personnage qui vraiment réagisse parce que ça l'a écœuré.
D'accord.
C'est, dès le début, de toute façon, il commence dans une ambiance qui était assez glauque. Mais ce petit bruit régulier dont on ignore la provenance, dérange.
Non, ça, alors là, Flavie, oh là là, si tu nous écoutes, Flavie, où que tu sois, on pense très fort à toi.
Oui, bizarrement, c'est aux femmes qu'on pense. C'était la seule femme à la table et les trois autres ont beaucoup moins eu cet effet.
Nous, on faisait des tapements comme ça réguliers. D'un coup, bam, un gros bruit. Et Flavie, elle était ultra réactive à ça. Elle hurlait dans la pièce et du coup, elle faisait peur à tout le monde.
Alors, Thomas, tu... Bah, technique. Non, moi, j'ai pas vécu, mais j'ai entendu parler.
Et bah, dans le scénario de Zeltorps aussi, les joueurs qui commencent à parler un peu trop, au moment de l'attaque de zombies, bah, paf, un gros coup sur la table, voilà ce que vous entendez.
Ça surprend toujours. Ouais, c'est clair. C'est clair. Super efficace. Seul de van.
Pour revenir à Sens, il y a quand même un truc. C'est que premier quadrilla, tu flippes. Deuxième quadrilla...
Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu flippes? Comment est-ce que tu mets cette technique? Comment est-ce que tu...
Première fois que tu croises un quadrilla, basiquement, c'est moi, c'était dans l'épreuve de
Ice Hill.
De Ice Hill, merci.
Ouais.
Et en gros, le truc, c'est tu l'as pas vu, il a fait ça ultra rapidement.
Mais ça, c'est du point de vue de la fiction, peut-être que c'est effrayant. Mais
ce que je veux dire, c'est que ça marche au niveau du joueur parce que. La peur, c'est la peur de perdre son personnage. Le problème, c'est qu'au bout d'un certain nombre de quadrillas, tu finis par te rendre compte d'une certaine matière que, en fait, moi, mes joueurs sont assez brillants, ils ont déjà l'impression que je risque pas tant que ça de perdre mon personnage.
Alors, en fait, finalement, si je devais expliquer ta technique, je dirais que c'est parce qu'ils ont peur de. Parce que les joueurs ont peur de perdre leur personnage, ils ont peur.
Et moi, c'est un problème dans ma chronique.
Et du coup,
ils sont suffisamment brillants pour s'être rendu compte qu'il y avait peu de chances qu'ils perdent leur personnage. Donc, j'arrive plus trop à leur faire peur.
Tu en as un.
D'accord. Ah ouais.
Tu en as un. Les joueurs peuvent recréer des persos, t'as le droit d'en tuer un.
Ouais, c'est chaud dans ce sens. Parce qu'il faut que le joueur soit d'accord.
Attends, déjà, faut que le joueur soit à peu près d'accord.
Franchement, j'ai failli le faire parce que. À la fin, il disait non, mais je ne le tue pas.
Mais moi, mon problème, c'est que j'ai déjà un problème de trop de pertes de personnages déjà pour l'instant.
En fait, Soldevan, là, il y a un truc que tu peux faire qui est tout con. Tu les tues pas, hein, vous pouvez pas mourir, mais alors vous allez être charclés, quoi. Moi, j'ai fait perdre des bras, j'ai fait perdre des mains, j'ai fait perdre des membres, j'ai crevé des yeux. Moi, Guenis, à la fin, il finira l'œil crevé. Et voilà, c'est quand t'abuses.
Oui, puis ils ont aussi
transformé en Némésis.
Sinon, t'as le solution, c'est que tu peux t'attaquer, tu peux pas leur attaquer à eux, mais tu peux tuer leur PNJ, quoi. Ah, je suis attaché à telle personne. Ah, tu fais des conneries. Ah, bah, c'est quoi avec tes conneries, elle est morte.
Ouais. Tu peux les détruire, quoi.
Juste pour tout le moment où Soldevan parlait, il y a quand même une technique assez simple, finalement, pour représenter la peur qu'il peut y avoir. C'est même pas d'écrire, c'est de dire des actions assez brèves, des phrases très courtes et incisives.
Ouais.
Pour aller directement dans le vif du sujet, ça peut monter. Comme quand on lit un livre et qu'on voit beaucoup de virgules, par exemple.
Et puis, des phrases dont ils ne comprennent pas forcément le sens. Ça va les intriguer, ils vont pas comprendre ce qui va se passer et ils vont angoisser en fait.
Ça c'est génial. Ça c'est une bonne technique.
Moi, je fais la plutôt ça parce que les bruits qui tapent, Yosei, mon ami, si je fais ça, je pense qu'elle meurt directement. Le cœur qui lâche, il n'y a pas de souci.
C'est très immersif.
La puissance des mots.
ça serait un petit peu salaud. mais la puissance des mots, oui, là, c'est clair. Par exemple, moi, dans le scénario de Blue Sky, à la fin, il y a quelque chose qui dit des phrases un peu incompréhensibles, mais qui sont en rapport. Qui sont en rapport.
On le veut, ce scénar.
demain.
Ne raconte pas, veut. En tout cas, il dit des phrases en rapport avec la métaphysique de sens. Et donc, les joueurs en convention ne sont pas foutus capables de bien encore comprendre tout ça. Et ça les fait flipper, quoi. Ça les fait flipper. C'est, voilà, donc, c'est intéressant. Je vous vois tous me regarder avec des yeux, là.
Je disais, la peur, dans le sens, c'est possible, mais pas en campagne, au bout d'un moment, en fait. Enfin, en scénar, en convention, c'est tout à fait possible. Le premier quadrilla, ils ont vraiment eu...
C'est parce qu'il y a les poils qui poussent pendant la campagne.
Aloïs. Adrien.
Ouais, moi j'ai envie de revenir parce que là on est en train de s'égarer. Le sujet c'était comment on leur fait peur aux joueurs, c'est ça?
Ouais, là c'est si la technique pour faire peur. Ouais.
Pour faire peur, bah alors le truc classique c'est, enfin de mon côté, c'est des descriptions normales, faire être neutre pendant toute la partie. Mettons pour la colline de glace, bon bah il y en a un qui s'est retrouvé isolé parce que le pont s'est effondré, les autres étaient d'un côté, lui de l'autre.
Ouais.
Donc je lui décris, bon bah tu vas passer la nuit là, il n'y a personne, il fait froid, tout ça. Et puis tout d'un coup. Mais alors, mais c'est brutalité et tu romps le rythme. Quand tu romps le rythme, le joueur tout d'un coup il est déstabilisé, il perd ses repères. C'est plus bon, je dois passer la nuit ici. C'est tout d'un coup là, il y a un truc qui me tombe dessus. Et d'accord. ça fait réagir. Pareil, ils ont vécu ça dans Sens Mort quand ils viennent de faire l'épreuve de buveur donc où ils découvrent les usines à viande dans buveur. Et là, ben ils avaient l'impression de lutter un peu contre une serial killeuse, tout ça. Et par des descriptions tout à fait naïves, je leur ai décrit les usines. Jusqu'au moment où ils voient passer un corps sur un crochet. Et donc c'est toujours faire une rupture. Et ça, c'est le truc qui fait réagir.
La tartine de chocolat, Thomas. La tartine de chocolat. On en reparlera.
Il ne faut surtout pas se tromper dans les termes.
On l'a déjà parlé.
Mes joueurs se rappelleront très très bien de l'exemple à Ice Hill, avec les personnages qui sont plantés dans le plafond. J'ai réussi à mettre beaucoup de tension à ce moment-là, et à un moment, un de mes personnages est passé dans l'ombre monde, et je lui dis « Désolé, il n'y a pas de piñata là ».
Il n'y a pas de piñata ?
Oui, il n'y a pas de piñata. C'est sorti tout seul. Et ça a brisé tout ce que j'avais mis une heure à mettre.
Eh ben t'es con !
Complètement, mais complètement. Donc avis à tous les auditeurs, ne faites jamais ça.
Ouais, j'ai eu la même cas avec Wilfried qui dit bon allez maintenant, mais c'est plein de tensions, plein de drames. Maintenant c'est dur, je sais, mais il va falloir se serrer les couilles. J'ai l'abscissé, serrer les couilles, et c'était tout foiré. Le scénar était à partir de là et devenu une catastrophe. Une anecdote bien connue.
Ça fait partie des techniques de ne pas faire certaines choses.
Voilà.
Alors, oui, parce que généralement, quand tu parles là-dessus, c'est que t'as déjà placé toute ton immersion, donc là t'as des joueurs réceptifs.
Bah ouais.
Et le faux pas, ils le reçoivent direct, donc c'est une ruine tout.
C'est clair. La peur, à votre avis, c'est un élément de sens quand même, malgré tout? On en parle de manière naturelle, mais après tout, on aurait pu se dire que ce sens, c'est un jeu qui fait pas peur. Enfin, c'est pas un jeu qui fait peur. Aloïs.
Moi, en tant qu'expérience de joueur, le premier scénar que j'ai fait de sens, donc c'était dans Rebirth, dans Renaissance, c'était à la découverte des fragiles.
Ouais.
Et d'être tout seul au fond de la flotte, dans une sorte de vaisseau bizarre où il se passe de drôles d'événements, mais il se passe rien. Moi, ça m'a fait peur. Je trouve que la peur fait partie de sens.
D'accord, ok. Shadow.
Et puis c'est intéressant la peur à faire ressentir. Même les joueurs ils ont peur mais ils aiment ça.
Donc de toute façon
même
peur.
Si c'est pas un élément de sens, je crois qu'il faut en mettre de toute façon.
Aloïs.
Pour moi la peur est un élément très important de sens en fait, en ce que c'est un outil plus qu'une fin. Parce que déjà ça permet aux joueurs de mieux s'identifier au personnage, de faire peur aux joueurs.
Ouais.
Et du coup ça incite à la réflexion. Je pense.
D'accord.
C'est pour ça que je m'en sers plus que je la recherche.
La peur qui incite la réflexion, c'est un peu bizarre.
Adrien.
Moi, c'est pas. En fait, il y a c'est pas de la peur que je mets, c'est plutôt du suspense que de la peur. C'est pas, enfin non, sans, c'est pas un jeu de d'horreur, donc il y a pas de peur. Il y a du dégoût dans Sens Mort et il y a du suspense dans Sens Renaissance.
D'accord.
C'est plus comme ça que je le vois. Après, le personnage a peur.
Ouais.
Mais le joueur, c'est plus du suspense qu'il
D'accord,
ressent.
D'accord, ok. Alors Thomas, on reprend ce débat là qui a l'air de vous animer. Tous
généralement, les gens, quand ils ont peur, ils réfléchissent plus beaucoup. Hein.
Oui, alors non, justement, il ne faut pas confondre la peur panique et la crainte, le suspense
c'est
dont parle.
C'est plus de l'angoisse. Voilà, de l'angoisse, c'est l'angoisse.
Parce que regarde, ce dont parle Chemise, Adrien, c'est vraiment la peur. Au sens, le suspense, au sens où on a envie de savoir la suite finalement, ou presque qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, on attend la suite. Et ça, ça fait réfléchir.
Le joueur ne pourra pas avoir peur en soi, puisqu'il est, forcément. Enfin, il peut avoir peur pour son personnage, mais la peur pour lui-même n'est pas présente, enfin, en tout cas dans ce que j'ai fait.
Ah bah dans les retours qu'on a eu du kit d'initiation,
je les ai pas faits.
Ah il y en a eu. Ouais,
non, on a eu des réactions avec le kit d'initiation où effectivement.
Il y a eu des braquages.
Jeu a vraiment fait peur aux joueurs.
De toute façon là on parle de l'immersion, c'est ça. Enfin un personnage qui est en pleine immersion, enfin il va avoir peur. Enfin le joueur va avoir peur. Hein.
Ouais, c'est complexe.
C'est juste que le joueur en tant qu'individu, il va moins se sentir menacé du fait qu'il ait le cul posé sur une chaise.
Alors dernière question que j'ai envie de vous poser, parce qu'on est déjà à 1h20 de podcast, donc je sais pas si vous vous rendez compte.
Et on n'a pas encore fait la vision de sens.
Mais voilà, mais en fait, oui et non. Là, on commence à s'en approcher. Justement, j'y venais. Mais justement, quelles sont, à votre avis, les choses que l'on doit transmettre? Par les techniques d'immersion, donc on parlait de la peur tout de suite, mais quel genre de sentiment on doit transmettre lorsqu'on maîtrise Sens Renaissance et plus loin Sens Mort, c'est-à-dire Sens Renaissance d'une part et Sens Mort d'autre part.
En gros, c'est quelle est la vision de Sens Renaissance qu'on veut donner de Sens Renaissance et Sens Mort.
Oui, non, quel genre de sentiment on doit transmettre dans les deux jeux. C'est vrai, oui, mais oui, ça se rapproche de la vision. Aloïs, dans Sens Renaissance, quel serait le truc qui est récurrent?
La fierté. Enfin. C'est un mot sur lequel j'arrive pas, enfin un terme, un sentiment sur lequel je n'arrive pas à mettre de terme, peu importe quand j'y réfléchis. C'est la félicité de se sentir rempli d'une mission, investi d'une mission qui est importante.
D'accord. Et pour Sens Mort.
Et du coup avec cette félicité, la responsabilité vis-à-vis des civils.
D'accord.
Notamment, enfin de la résistance en général.
D'accord.
Pour Sens Mort. À vrai dire, j'y ai pas vraiment réfléchi.
Alors, on passe le micro à Adrien, puis tu nous en diras ça après. Adrien, pour Sens Renaissance, quel serait
Je vais commencer par Sens Mort. Pour Sens Mort, c'est plus clair, parce que je suis en train de le faire jouer en ce moment.
D'accord.
Plus proche. Pour Sens Mort, moi, c'est la responsabilité. Ils ont été lâchés tout seuls. Les immortels les ont abandonnés. Finn Longfinger, il est maussade dans son coin. Il cherche sur la Lune un peu partout. Il s'en fout un peu des bugs maintenant.
Ouais.
Et les bugs sont là. Et on leur a dit, vous devez libérer la Lune. C'est du boulot, quoi. Et ouais, c'est responsabilité avant tout sur la Lune. Je veux que
c'est le sentiment que tu cherches à transmettre.
Je veux que les joueurs se sentent responsables.
C'est marrant. Je m'attendais à quelque chose de plus sombre, justement déception.
Alors, en fait, non, parce que ça, le sombre et déception, ça vient forcément. J'ai pas besoin d'essayer de le faire. Les aventures sont autour de ça. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je vais essayer.
D'accord.
Ça vient naturellement. Quand ils découvrent une usine de viande humaine. J'ai pas besoin d'avoir préparé grand chose pour les plonger dans le désarroi le plus complet.
D'accord. Ouais. Ça fait d'autant plus rayonner leur sensibilité parce que le désarroi est grand en face, quoi.
Ouais. Et puis eux, après, du coup, moi, j'ai essayé de pousser l'argument sur ces usines, elles vont continuer. C'est à vous de faire quelque chose parce que. Et là, c'est putain, mais il y a des lois qui. Pardon. Il y a des lois qui défendent tout ça. Qu'est-ce qu'on va faire
Sens Renaissance.
Et sur Sens Renaissance. C'était quoi la question?
Quel sentiment est-ce que tu cherches à transmettre?
Quel sentiment j'essaye de transmettre?
De transmettre dans Sens Renaissance. Lui, il disait justement la fierté d'être investi d'une mission.
Pour moi, c'est plus comme dans un manga, un shonen, c'est plus une idée de progression.
D'accord.
C'est être à la base, premier quadria, mon Dieu, mais c'est quoi cette horreur? Et dernier quadria, bon, ils étaient 5, on était 4, ça va. C'est plus sale. Pour moi, c'est plus cette impression de progression et d'arriver au final que la victoire qu'ils ont, c'est une victoire méritée parce que ils ont progressé.
Sens Mort, Aloïs, ça y est, t'as retrouvé.
L'impuissance.
L'impuissance, ouais, moi je suis d'accord avec toi.
En un mot, je pense que c'est ce que je peux faire ressentir de mieux à mes personnages, c'est leur impuissance par rapport à ce qui leur arrive.
Ouais, tu leur conseilles quel médicament?
Bah, tu pourrais me donner des conseils pour ça.
Ça y est, ça clash.
Oh la vache! Attention, attention. Shadow, remets de l'ordre dans dans ce sujet-là.
Ah non, moi j'aime bien.
Cette guerre fratricide.
Désolé, Adrien.
C'était trop tentant, quoi.
Faut pas tendre des perches. Donc oui, le sentiment
d'impuissance. Parlant d'impuissance.
digression. Le sentiment d'impuissance par rapport à ce qui arrive sur la Lune, même si au final ils vont agir. De prime abord, je veux qu'ils.
Et par rapport à Miphos aussi.
Oui,
je
voilà.
Pense.
Ouais. Déjà, il y a Miphos parce qu'il va falloir qu'ils se révoltent pour pouvoir faire quelque chose un jour. Et par rapport au, ne serait-ce qu'au quadrillade de mort. D'abord, un sentiment d'impuissance avant de se rendre compte que finalement ils sont pas si dérisoires. Et c'est pour que ce soit ce qui se passe ensuite pour Miphos.
Shadow.
Moi, je l'ai rejoint assez. Donc, ouais.
Fierté d'être investi d'une mission.
Ajouter.
Tu dirais ça?
Oui, tout à fait.
Ouais. Impuissance et responsabilité.
Voilà. Je pense qu'ils ont cerné la problématique.
Ouais, moi, je pense aussi.
Après, dans Renaissance, le sentiment
à transmettre.
Ouais. Moi, j'ai juste envie qu'ils se posent beaucoup de questions parce que moi, en tant qu'MJ, j'arrête pas de me poser des questions sur la suite. Je veux pas être le seul.
D'accord.
Voilà, mais autrement, ouais, dans les sentiments, ils ont fait le tour, je pense. Enfin, ils ont cerné.
Saut de vanne, est-ce que tu as une idée là-dessus de ce que. Ce blanc est tout à fait.
Non, en fait, intéressant. Sans ce mort, j'ai pas encore trop réfléchi, mais oui, je pense que l'impuissance déjà dans Mort, c'est bien. Ouais. Et même. Je ne vais pas faire toute ma campagne comme ça, mais j'ai envie de m'amuser à faire un scénario où je vais faire en sorte que mes joueurs se fassent chier.
Dans un sport?
Ouais.
Oh non, ça marche pas. Ça, ouais. Non, il ne faut pas faire ça, surtout pas. Si on pouvait donner un micro.
En fait, j'en ai fait un de ces scénars comme ça, ce n'était pas voulu. j'ai fait un scénar, c'était un scénar très politique, qui devait essayer de défendre un projet de loi pour qu'il y ait du commerce entre la Terre et la Lune. Parce que ça aiderait la résistance sur la Terre, ça aiderait la résistance sur la Lune. À la fin du scénario... Bon, vous n'avez pas l'air d'avoir trop compris ce qu'il faisait là. Le scénar suivant a été il y a 2 mois plus tard, un truc comme ça. Et donc, je leur ai demandé, comme d'habitude, alors qu'est-ce qui s'est passé au scénar d'avant? Et là, ils m'ont regardé avec des grands yeux blancs. Je sais pas. On est allé à Doxystéron pour regarder les runes. Oui, non, ça, c'était pas le scénar. Ça, vous l'avez fait à côté. Et je sais pas. Du coup, un scénar où ils se font chier.
Non, je pense que c'est une très mauvaise idée.
C'est une mauvaise idée.
Ah ouais.
Tu peux faire un scénar frustrant.
Ouais.
Ouais,
mais pas un scénario où ils se font chier. Parce
d'accord.
Que, ça,
je suis totalement d'accord.
Alors moi, c'était comme ça que ça s'est passé. Hein.
Qu'est-ce que tu disais?
Sauf si tu veux les anéantir, parce que dans ce cas-là, ils peuvent prendre à balle d'immersion négative.
Et comme Soldevan a l'air d'être un fan de l'anéantissement, deux jours anéantis.
C'était pas de ma faute.
Thomas, de Sens Renaissance, Sens Mort.
Bah, j'avais déjà dit tout à l'heure. Moi, les sentiments que je veux dans Renaissance, c'est l'héroïsme.
Ouais.
Leur montrer que ils sont balèzes et dans Sens Mort, l'impuissance et la réflexion.
D'accord.
Parce que c'est vrai que moi
la réflexion, l'immersion, l'introspection.
Voilà. Ouais. Je trouve qu'en fait dans Sens entre Sens Renaissance, c'est plus tiens, on va te montrer un peu l'univers, ce que tu peux faire avec ton personnage. Et puis à Sens Mort, ça commence.
Je suis entièrement d'accord avec Tom. Et je rejoins Loïs et Adrien aussi. Enfin, je pense que tout ça, on dit tous la même chose, donc à mon avis, c'est bon quoi.
Comme quoi, le message est bien passé.
Oui, justement. Donc la vision de ce qu'on a de Sens a l'air d'être à peu près la même finalement. C'est pas si différent.
Après, le problème, ça reste Solipsis et Miphos.
Ah ça c'est un autre débat. Et je pense que déjà, tu voulais ajouter quelque chose.
Ouais, pour Renaissance, l'héroïsme, ça dépend sous quelle forme. Moi, je vais plus faire le monde, il est pourri. T'as intérêt à te bouger le cul et tu vas le rendre bien. C'est-à-dire par la valorisation.
C'est pas du tout ça. C'est vrai que le bug, ce que je veux, c'est lui montrer que oui, t'es un héros. Dire que le gars, quand il se balade dans les taudis, t'as tout le monde en train de faire « Oui, vous êtes géniaux, vous allez nous sauver !»
Oui, mais justement, non, moi, c'est les bugs doivent réveiller le monde. Et la différence principale, à mon avis, que je vais faire, c'est que dans Sens Renaissance, ils y arrivent.
Il y a dans un cas, en fait, l'héroïsme est toujours là. Ce que veut dire Soldevan, c'est que l'héroïsme est toujours là et cette problématique est toujours là. Mais dans Sens Renaissance, ils y arrivent, alors que dans Sens Mort, ils échouent à effectuer cette action. Aloïs, Adrien, je sais pas, il y a l'un d'entre vous qui
le parle. Je continue sur mon idée que Renaissance ne doit pas être trop empli d'héroïsme.
D'accord. Pourquoi ?
Je préfère garder ça pour la fin de la campagne, pour garder le parcours initiatique finalement.
D'accord.
Ah ouais. Mais ça permet de faire une vraie coupure avec Sens Mort, cet héroïsme. Ouais. Comme disait, voilà. Mm. Enfin,
disons que j'en fais pas des personnages qui sont capables de rien, mais je veux pas qu'ils se prennent trop pour n'importe quoi et que ça vienne au fur et à mesure.
Ouais, de toute façon, regardez le potentiel d'héroïsme sur le dernier, quoi.
Voilà.
Ouais, mais tu vois, le ressenti que moi, enfin, voilà, c'est vrai que j'ai fait les trois. Sans forcément dégoûter les gens. Ce que je veux dire, c'est vrai que dans Rebirth, moi ce que j'aime, voilà, c'est que justement, le fait que je suis un héros, je suis très fort. Dans Sens Mort, tout ce que je fais, je l'échoue, je réfléchis sur autre chose. Et justement, quand t'arrives à la fin, t'as bien réfléchi sur le monde, tu sais exactement ce que tu veux, et l'héroïsme est encore plus fort. Parce que là, enfin, tu peux de nouveau réussir tes actions. Moi, ce qu'en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans Sens Mort, je veux vraiment les casser, quoi. Mes joueurs, je veux qu'ils ressentent que le monde, il est super dur. C'est plus sympa ce que tu faisais là-bas, c'était bien, parce que t'étais un résistant. Quelque part, les ennemis que tu combats, ils se laissent tuer, quoi.
Et je veux dire, le retour dans Sens Cosmo est énorme, quoi. Parce que t'as un sentiment, justement, dans Sens Cosmo, après Sens Mort, t'en as tellement chié que dans Sens Cosmo, t'as une espèce de déferlante de bugs. Ouais.
Et l'héroïsme, il y a aussi.
Un peu plus, parce
que si tu veux, Sens Renaissance, Sens Mort, Sens Cosmo.
Il essaie de soutirer les gens.
J'en ai déjà parlé. Si t'as écouté les podcasts, j'ai déjà parlé de ce que va être Sens Cosmo à peu près. Et c'est vrai que moi, j'ai construit un peu cette trilogie-là, je l'ai un peu construite sur le rythme d'un Star Wars. C'est con à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que le premier, on a une histoire un peu cohérente où on a l'impression qu'il y a un espoir, un nouvel espoir, etc. Et un aboutissement finalement, la destruction de l'étoile de la mort et là, la destruction de l'Omicron sur Terre. Premier point. L'Empire contre-attaque, le moment où les héros s'en prennent plein la gueule, où ils vont perdre des amis, etc. Dans Sens Mort, on a un petit peu le même modèle, c'est-à-dire qu'on s'en prend plein la gueule, on va de déception en déception, on perd ses amis, y a plein de trucs comme ça. Et dans Sens Cosmo, c'est comme dans le Retour du Jedi. Et si tu te souviens du Retour du Jedi dans Star Wars, ça blaste. Et là, cette fois-ci, on résout les problèmes, quoi.
Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans Sens Renaissance.
Kadria, c'est mon père.
Non, c'est un Ewok.
C'est toi, son père.
Mais en tout cas, tu jetteras l'empereur dans un grand trou. Il tombera bien bas.
Non, moi, je voulais revenir sur Sens Renaissance, c'est que l'héroïsme en plus que tu donnes dans Sens Renaissance est très diminué parce qu'à la fin, tu apprends que tous les gens contre qui tu t'es combattu se sont laissés mourir.
Oui, voilà.
Mmh. Voilà donc, j'étais un héros, mais question sur ta cause. Je suis vraiment un héros. Alors, moi, je trouve que là, c'est important. Moi, j'ai toujours fait jouer l'héroïsme à fond.
Après, c'est ce que je pense, mais dans les faits, je pense que mes personnages se sont quand même sentis bien investis de la mission. Mmh. Au final, vu que, comme on disait la dernière fois, ma campagne est tournée sur l'action du fait que je joue en club.
Bon, en tout cas, merveilleux podcast. Vraiment, je pense que ce sera un podcast. Moi, j'ai pris
tu
grand plaisir.
Tu penses vraiment qu'il y a encore des auditeurs
à je sais pas s'il y a encore des auditeurs à cette heure-ci, mais en tout cas, ceux qui ont eu le courage de l'écouter jusqu'au bout.
Mais les auditeurs, ils sont là autour de la table. Non, c'est pas ça.
Ah, il a pas tout à fait tort.
Et donc, je pense qu'il y a moyen de retirer vraiment beaucoup d'enseignements de ce podcast. Merci à vous tous.
Merci. Nous qui te remercions. Merci
à vous. À bientôt, tout le monde. Au revoir, bonne fin de soirée. Salut, salut.
Salut.
Jouez bien.